Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct, mercredi 9 avril de 18 à 21h, en différé jeudi 10 avril, dans la nuit de 2h à 5h, et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Bekech, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir Philippe, Philippe Bonrad.
Bonsoir Bernard.
Nous attendons Dominique Vénère qui nous rejoindra d'ici une heure environ. Et notre autre invité, Émeric Choprade, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, qui nous rejoindra également dans un moment, car nous parlerons avec lui de la géopolitique de la question irakienne. Une émission qui va être divisée en deux parties. Une première partie, qui durera environ une heure ou un peu moins d'une heure, qui va être consacrée à l'actualité africaine, parce que pendant la guerre d'Irak, pendant les événements d'Irak, une riche actualité africaine se déroule et est occultée, nous allons en parler tout à l'heure, des événements très sérieux qui se déroulent un peu partout en Afrique. Et ces événements vont réapparaître dès que les combats seront terminés en Irak. Et une seconde partie qui traitera très précisément de la longue durée historique du problème irakien. Nous allons essayer d'aller au-delà de ce qui est dit ici ou là dans la presse, et nous allons reprendre sur plusieurs millénaires l'histoire et la géopolitique de toute cette région du Moyen-Orient, toute cette région de la Mésopotamie, toute cette région de cette zone du croissant fertile qui fut une zone d'où, semble-t-il, ont pu apparaître les premiers éléments civilisationnels, du moins pour la partie centre-occidentale de notre globe. Nous ferons une émission qui sera historique et géopolitique, et nous essaierons bien sûr au maximum de ne pas être partie prenante dans les événements actuels. Notre but n'est pas de faire une émission politique sur la question irakienne, mais de donner aux auditeurs de Radio Courtoisie les clés historiques permettant de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, les enjeux actuels et les soubassements, le substrat, les permanences de la longue durée de l'histoire de cette région. Avant donc de passer à cette seconde partie, nous allons commencer par l'actualité africaine, et je vais demander, comme d'habitude, à Philippe Conrad d'introduire cette partie. Philippe, je vous passe la parole.
Oui, et ben, comme vous le disiez à l'instant, Bernard, les événements du Proche-Orient, la guerre déclenchée par l'administration Bush contre l'Irak, monopolise un petit peu les projecteurs de l'actualité depuis plusieurs semaines, mais il se trouve qu'au même moment, beaucoup de choses se passent sur le continent africain. Bien sûr, on sait que dans toute l'Afrique blanche, de l'Égypte au Maroc, il y a une mobilisation considérable des opinions publiques contre l'agression américaine, mais il se passe aussi beaucoup de choses dans l'Afrique subsaharienne. Un certain nombre de pays que nous connaissons bien, parce que c'est un petit peu répétitif à chaque fois. Nous faisons l'analyse, n'est-ce pas, des catastrophes qui se déroulent ou que l'on peut aisément prévoir dans de très nombreux pays. Il y a les événements du Burundi, il y a les événements de Côte d'Ivoire, il y a des événements en République populaire du Congo.
En
République démocratique, bien
oui.
sûr.
Oui, en République populaire, il y a, oui.
Mais disons que la situation n'y est guère satisfaisante non plus. Il y a les événements du Libéria. Donc, quels sont les pays que nous allons retenir en priorité ce soir pour en présenter la situation à nos auditeurs?
Mais disons que je vais rapidement brosser un tableau général de la situation africaine et nous allons ensuite essayer de lancer un phare particulier sur l'un ou l'autre de ces pays. Alors, il est tout à fait évident que la guerre contre l'Irak éclipse actuellement une actualité africaine qui est explosive. Une actualité qui est explosive et des tendances lourdes qui sont de plus en plus explosives elles aussi. On peut dire pour ce qui est des conflits africains et des points chauds immédiats qui feraient l'actualité s'il n'y avait pas la question irakienne et qui vont faire l'actualité dans quelques jours ou dans quelques semaines dès que l'on ne parlera plus de l'Irak ou dès que l'on parlera moins de l'Irak. Disons que l'Afrique a connu ces dernières semaines un coup d'État militaire. Un coup d'État militaire en Centrafrique. Le président Patassé, élu, a été renversé par le général Bozizé. Nous avons longuement parlé de la Centrafrique il y a 2 mois, donc je ne reviens pas sur la question. Disons simplement que la Centrafrique est un pauvre pays malheureux. Ce pays qui était la Cendrillon de l'Empire français, comme on disait à l'époque, est un pays en perdition. La seule note d'espoir, peut-être, c'est que dans ce désarroi absolu, un homme intègre est arrivé, non pas au pouvoir, mais comme Premier ministre, mon vieil ami Abel Goumba, professeur agrégé de médecine, que j'ai très bien connu au Rwanda, puisqu'il a été pendant 3 ans le médecin du poste de Butare où nous étions, qui est un homme remarquable. C'est un homme honnête, il est âgé, que va-t-il pouvoir faire ? Je ne sais pas s'il pourra faire grand-chose. Mais du moins, un homme honnête est au pouvoir, aux commandes, ou du moins est Premier ministre de République centrafricaine. Mais ce pays n'existe pas. Ce pays est tiraillé entre une attirance vers le sud, vers le fleuve, une attirance vers le nord, vers le Sahel. Ce d'autant plus que vers le nord, dans la zone sahélienne, au Tchad, du pétrole a été découvert. Et ce pays, à l'heure actuelle, semble être devenu une sorte de terre sous contrôle du Tchad. Il faut bien voir que le général Bozizé a pris le pouvoir avec des guerriers du nord du Tchad, avec 300 ou 400 guerriers venus du nord du Tchad. Et aujourd'hui, la situation est en fait contrôlée par les hommes du désert qui ont traversé la forêt avec des Goran, avec une garde personnelle Goran. Donc des alliances tout à fait particulières qui se déroulent dans un climat de fragilité accéléré par les événements du Congo dont nous parlerons tout à l'heure. Un pays qui est en perdition, qui n'a pas d'avenir à moyen terme.
Deuxième. Le général Bozizé, c'est un Sahara?
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Non, c'est incroyable. Mais il a été soutenu soutenu par le Tchad. Mm-hmm. Et notamment avec l'élément de pointe qui lui a permis de conquérir Bangui, ce sont des Goran, ce sont en fait des hommes de l'ethnie d'Issenabré.
Il y a des gens qui cherchent à neutraliser ainsi indirectement une éventuelle revendication des Sahras du Tchad.
Ah, c'est tout à fait, ça c'est très clair. Votre question est très bonne, c'est très très clair. Il y a là, dans cette géopolitique régionale, un problème qui est tout à fait évident. C'est le problème que je ne cesse d'évoquer sur Radio Courtoisie et que je ne cesse de développer dans mes divers articles, dans mes divers livres. Il y a l'opposition entre les peuples du Nord et les peuples du Sud. La question du Tchad est l'archétype de cette question. Parce que nous avons eu pendant des années le soutien artificiel donné par la France aux peuples noirs du Sud contre les peuples guerriers du Nord. Et les peuples arabo-berbères du Nord, appelons-les comme noms différents, les Toubous, les Goran, mais ce ne sont pas des Africains noirs. Et finalement, l'histoire a repris ses droits et les hommes du Nord ont repris le pouvoir. Et depuis qu'ils ont repris le pouvoir au Tchad, bien la question du Tchad ne se pose plus. Il y a des querelles de clans, parce qu'entre eux, ils sont très divisés. Mais il n'y a plus de compétition, car les hommes du Sud ont été vaincus. Or, les Sahara qui vivent dans le sud du Tchad et qui sont des Noirs, sont à cheval sur le Tchad et sur la République centrafricaine. Et la crainte de certaines autorités tchadiennes était de voir qu'à l'occasion du maintien au pouvoir du président Patassé, les Sahara des deux côtés de la frontière puissent constituer une sorte de mouvement, de soulèvement ou d'irrédentisme contre le pouvoir central. Or, le pétrole se trouve précisément dans ces zones. Ce qui fait qu'il est devenu fondamental d'évincer Patassé. D'autant plus que Patassé, Patassé, qui était un homme du nord de la République centrafricaine, était soutenu par les rebelles congolais du Congo démocratique, l'ex-Zaïre, qui sont dans le nord du Congo démocratique. Donc une alliance totalement contradictoire, mais qui faisait qu'il y avait éventuellement pour le Tchad un facteur de déstabilisation dans le sud. Donc l'affaire est réglée provisoirement, parce qu'il est bien évident que Bozizé, qui est un homme de l'ouest du Tchad, de la République centrafricaine, va devoir naviguer et va devoir prendre son autonomie vis-à-vis du Tchad. Et, ou bien il devient un protégé, ou bien il s'émancipe. S'il s'émancipe, cela peut devenir dangereux. S'il devient un protégé, bien les situations seront différentes. Donc, une situation dans la région qui est très complexe, qui est une situation très intéressante à suivre parce que nous ne sommes pas loin du Sud-Soudan, où là encore, une guerre se déroule depuis une trentaine d'années. Une guerre du Sud-Soudan qui n'a pas cessé pendant la guerre d'Irak. Une guerre du Sud-Soudan qui ne cesse de se prolonger en dépit des accords de paix, en dépit des signatures, en dépit des rencontres des leaders. Cette guerre est dans une phase non terminale dans l'état actuel des choses, car ce qui devient tout à fait inouï, c'est que chaque fois qu'un accord est signé, dans les jours qui suivent, la guerre reprend. Il y a toujours une des tribus nilotiques qui n'accepte pas l'accord signé, et il y a toujours des éléments plus ou moins incontrôlés ou contrôlés de l'armée qui lancent des raids contre l'une ou l'autre des tribus. Donc, une situation très confuse là aussi. Nous avons tout l'ensemble ouest africain, de la Guinée jusque au Nigeria, qui pose de graves problèmes. Dans cette région, nous avons la guerre du Libéria qui a repris. On n'en parle pas. Mais il y a quelques jours, les rebelles libériens étaient quasiment aux portes de Monrovia, la capitale du Libéria. La guerre du Libéria, qui est une guerre ancienne, est une guerre qui connaît une nouvelle définition actuellement à la suite des événements de Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que les ethnies de Côte d'Ivoire Et les ethnies du Libéria sont à cheval, du moins certaines de ces ethnies. Les ethnies les plus occidentales de la Côte d'Ivoire et les plus orientales du Libéria sont à cheval sur les deux pays. Or, l'actuel président du Libéria, le président Taylor, est un Guillot. Guillot, Mano, ce sont des ethnies qui sont apparentées aux Dan, aux Yacouba et aux Gouro de Côte d'Ivoire. Or, ces tribus sont en opposition contre le pouvoir central du président Gbagbo. Le président Gbagbo, lui, est embêté. Il est donc apparenté aux crânes qui sont au Libéria. Or, les crânes du Libéria étaient au pouvoir avant la prise du pouvoir par Taylor, qui est un Guillot soutenu par les Mano. Or, à l'heure actuelle, comme le pouvoir du président Gbagbo a été sérieusement menacé par une rébellion Yacouba, qui était soutenue précisément par les hommes qui sont au pouvoir au Libéria. Le président Gbagbo n'a pas été fâché de voir qu'à revers, le pouvoir du Libéria était menacé par ses cousins crânes qui marchent sur la capitale Monrovia. Donc, un embrasement général qui est en train de se produire avec une balkanisation du conflit, dans la mesure où, sur l'ouest de la Côte d'Ivoire, les rebelles qui sont en opposition au régime ne sont pas contrôlables. Rien à voir avec les rebelles du nord de la Côte d'Ivoire, qui c'est une toute autre rébellion, une toute autre population. Les hommes du nord sont des gens, des sahéliens, sont des hommes qui sont beaucoup plus disciplinés, qui du moins obéissent à leur chef traditionnel, tandis que, et ce sont des gens qui ont un code de l'honneur, tandis que la rébellion de l'Ouest, c'est une rébellion de drogués.
Totalement chaotique.
Chaotique, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce que l'Afrique peut produire de pire.
Et c'est face à eux que se trouve aujourd'hui, pour une part, l'armée française.
Ah, qui bloque la situation. Car si l'armée française n'était pas là, dans l'Ouest, la situation serait apocalyptique, parce que les rebelles prendraient San Pedro, prendraient les ports du cacao, et arriveraient là, sur les routes d'accès, qui mènent par l'Est, par l'Ouest, en direction de l'Est, vers Abidjan, et vers le plateau central de la Côte d'Ivoire. Alors il y a cette question du Libéria qui est très grave, avec bien entendu ses prolongements en Côte d'Ivoire où le gouvernement d'unité nationale n'existe que sur le papier, mais il tarde à se mettre en place. En d'autres termes, l'analyse que je fais de cette situation en Côte d'Ivoire est la suivante. Tout a été gelé avec l'affaire d'Irak. Et l'affaire d'Irak a fait que tout le monde attend de voir comment les choses vont tourner. Avec un élément supplémentaire qui est que la France, qui diplomatiquement était totalement exclue du jeu il y a 2 mois, est redevenue incontournable, pour parler en langage contemporain, en Afrique, depuis les déclarations et les prises de position du président Chirac à propos de l'Irak. On a du mal à imaginer depuis Paris, depuis nos confortables petites existences bureaucratiques ou citadines, à quel point l'image de la France est forte en ce moment en Afrique. Moi qui voyage en Afrique régulièrement, j'étais encore dans ces contrées il y a quelques temps, moi qui lis la presse africaine, qui ai des contacts quotidiens avec l'Afrique, je puis vous affirmer que la position française est considérablement forte. Toutes les erreurs, toutes les reculades, toutes les gifles, toutes les maladresses commises depuis 15 ans sont effacées. Elles ont été effacées d'un coup par ce coup de génie qu'a eu Chirac. Un coup de génie dans cette position prise à propos de l'affaire irakienne. Et pas uniquement en Afrique du Nord. Pas uniquement dans le monde musulman. Dans toute l'Afrique. Et quels sont les seuls pays qui ne se sont pas joints au cœur des acclamations pro-françaises? Ce sont des pays qui sont véritablement alignés et qui ont besoin des Américains. 2-3 pays, l'Érythrée, l'Éthiopie et le Rwanda. Le Rwanda qui, non pas parce qu'il a besoin des Américains, mais parce que le président Kagame en veut tellement à la France, à la suite de la politique stupide suivie par la... Stupide, non pas criminelle, car la France n'est pas responsable de ce qui s'est passé, mais stupide parce qu'elle a supporté ce régime qui était un régime criminel, au Rwanda avant 1994. Et le président Kagame en veut tellement à la France qu'il est prêt à s'allier à n'importe qui pour essayer de rendre à la France à monnaie de sa pièce. De même qu'il en voulait tellement à l'Église catholique, qui a eu un rôle terrible dans la genèse des événements, qu'il a fait des fêtes musulmanes, des fêtes officielles au Rwanda, où il y a quasiment peu de musulmans. Donc c'est un cas qui relève un petit peu de la du règlement de compte personnel. Mais autrement, toute l'Afrique s'est rangée derrière la France.
Oui, ce qui s'est exprimé, excusez-moi de vous interrompre, ce qui s'est exprimé un petit peu dans l'attitude des trois pays africains du Conseil de sécurité, Guinée, Cameroun et Angola, dans leur attitude finalement très réservée, qui a découragé les Américains d'aller chercher une majorité au Conseil de sécurité pour avoir un feu vert pour leur attaque contre l'Irak.
Tout à fait, parce que sur le papier, en pure logique économique, ces trois pays auraient dû soutenir, sur les trois pays. La Guinée aurait dû soutenir les États-Unis. Pourquoi ? La Guinée a toujours été supportée par l'Amérique. Au moment où Sékou Touré se sépare de la France en 58, les capitaux français quittent la Guinée. Qui investit en Guinée marxiste ? Les Américains. Les Américains qui aujourd'hui nous donnent des leçons de morale politique et qui étaient dans tous les coups tordus qui ont été menés en Afrique. Les Américains et les Canadiens d'ailleurs. Premier élément. Donc on aurait pu s'attendre à ce que la Guinée s'apprête à voter pour les Américains. Pas du tout. Deuxième pays qui était quasiment certain de voter pour les Américains, l'Angola. Pourquoi l'Angola ? Pour deux raisons. D'abord parce que l'Angola a pour principal client pétrolier les États-Unis, mais également parce que les États-Unis ont donné à l'Angola les moyens de gagner sa guerre contre l'UNITA. C'est tout de même grâce aux États-Unis que la localisation du portable de Jonas Savimbi a été faite et que Savimbi a été assassiné. A été assassiné par des commandos qui sont arrivés directement grâce aux repérages qui ont été faits par la CIA.
Savimbi soutenu par les Américains pendant très longtemps, bien sûr.
Donc, Savimbi soutenu par les Américains, trahi par les Américains. Donc, on pouvait s'attendre à ce que l'Angola vienne se ranger aux côtés des Américains. Pas du tout. Car il est évident en Afrique qu'un régime qui se serait rangé aux côtés des Américains dans cette affaire-là serait passé pour le valet de l'impérialisme.
Donc la ligne définie par l'Union africaine finalement a été globalement suivie.
Le seul pays qui devait automatiquement s'aligner sur la France, c'est le Cameroun. Parce que le Cameroun est un pays très lié à la France, et également parce que le Cameroun a un contentieux territorial avec le Nigeria, et le Cameroun a des accords de défense avec la France. Et en cas de guerre entre le Cameroun et le Nigeria, sans l'intervention de la France, le pauvre Cameroun ne pèserait pas d'un grand poids. Bien, en dépit de cela, les trois pays africains ont fait comprendre aux États-Unis qu'ils allaient s'abstenir. Donc s'abstenir, ça veut dire voter contre eux. Non, il y a eu là une opération politique tout à fait remarquable. Alors, va-t-elle se poursuivre dans l'avenir ? Je ne sais pas. Aura-t-elle des profits pour nous ? Je n'en sais rien. Sera-t-elle intéressante au point de vue géopolitique ? Je n'en sais pas plus. Mais ce que je peux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, et je reviens à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la position de la France est absolument intouchable en Afrique. Et aller contre la France est impensable. Ça ne va peut-être pas durer. Mais telle était l'opinion au moment où s'est constitué le gouvernement d'Union nationale. Or, au moment où s'est constitué le gouvernement d'Union nationale, quelle était la situation en Côte d'Ivoire ? Le président Gbagbo était acculé, et le président Gbagbo faisait de la surenchère anti-française. Et le président Gbagbo a cru malin d'instrumentaliser certains de ses nervis agitant des drapeaux américains. Il a eu tout faux. Il a eu tout faux, le pauvre président Gbagbo, parce que il a cru être très malin en disant à l'opinion mondiale « Regardez, on peut se passer des Français, nous, on demande aux Américains de venir nous aider. » Mais à partir du moment où l'Amérique, le géant, a agressé le pauvre pays du tiers-monde qu'est l'Irak, avec des moyens scandaleusement disproportionnés, tous les Africains se sont identifiés aux Irakiens. Même ceux qui détestent Saddam Hussein, même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Saddam Hussein, même ceux qui ne sont pas musulmans, même ceux qui sont catholiques. C'est une réaction des petits qui sont avec le petit, qui est agressé par un grand et qui se comporte comme un porc, parce que le comportement des Américains a été scandaleux avec cette pression, ce chantage qui a été, même les Turcs se sont rebiffés. Les Américains ont tellement été arrogants dans leur provocation que les gens ne pouvaient que se lever contre eux, sauf leurs sirbottes habituelles ou ceux qui dépendent totalement d'eux. Alors donc, tout a changé à ce moment-là en Côte d'Ivoire, parce que Gbagbo n'était plus en mesure d'exercer un chantage contre la France. Car tous les partenaires politiques du jeu ivoirien ont dit à Gbagbo, mais comment attaquer la France, alors que la France qui défend l'honneur des noms englobés dans l'impérium américain, on ne touche pas à la France. Donc la personne de Chirac est devenue intouchable. Les accords de Marcoussi devaient s'appliquer, et Gbagbo s'est incliné. Il ne va pas l'accepter longtemps. Dès qu'il aura la possibilité de revenir là-dessus, il va le faire. Donc voyons bien que ces événements d'Irak et ce contexte international, cette géopolitique, ont fait que, là encore, il y a eu un changement. Mais tout est gelé, tout va exploser, car ce gouvernement d'union nationale ne va rien régler du tout, car les constantes de division sont là. Alors nous avons parlé de la Guinée, nous avons parlé, pardon, du Libéria, nous avons parlé de la Côte d'Ivoire. Alors, autre pays qui, lui, est à la veille d'un embrasement, c'est la Guinée. La Guinée, pourquoi ? Parce qu'en Guinée, le président Alassane a compté, à ses jours qui sont comptés, le malheureux, il est en phase très avancée d'une maladie incurable, et il a renoncé au pouvoir. Il s'est replié dans son village et il attend la fin dans son village. Plus rien ne se passe en Guinée. Alors que va-t-il se passer en Guinée ? Grand savant serait celui qui pourrait annoncer la suite, mais il est à craindre que les règlements de compte qui ont été suspendus depuis la mort du président Sékou Touré, que ces règlements de compte apparaissent au grand jour. Parce qu'en effet, que s'est-il passé depuis la mort du président Sékou Touré, depuis cette vingtaine d'années, du colonel président général Lansana Conté? Lansana Conté est un soso.
C'est le successeur de Sékou Touré.
C'est lui qui a pris le pouvoir après la mort de Sékou Touré. L'armée a pris le pouvoir. Et après la mort, Sékou Touré, c'est malinqué. Il y a trois ethnies en Guinée. Trois ethnies. Les plus nombreux sont les malinqués. Les Peuls arrivent immédiatement après. Et la troisième ethnie, la moins importante, enfin, il y en a plusieurs autres petites, mais la troisième grande ethnie, c'est celle des Sosos. Les Sosos qui sont à environ 20%. Or, les malinqués étaient au pouvoir depuis l'indépendance. Donc depuis 58, avec Sékou Touré. Et les malinqués avaient bien compris qu'il fallait laisser la main, parce que le système a été tellement coercitif, tellement tyrannique, il fallait peut-être se faire oublier pendant quelque temps. Les Peuls, eux, qui avaient vocation à prendre le pouvoir, n'étaient plus en mesure de le prendre, parce que Sékou Touré avait procédé à un véritable génocide des Peuls. Et les cadres Peuls avaient été massacrés, les Peuls avaient été dispersés. Donc les Peuls avaient besoin de refaire leur force. Alors finalement, les malinqués ont jugé assez fin, et ils ont bien joué, de mettre au pouvoir les Sosos qui leur sont apparentés et qui avaient traversé le régime Sékou Touré sans trop de malheur. Et les Peuls et les malinqués se sont dit que les Sosos au pouvoir ne représentaient pas de danger et permettaient d'attendre des jours meilleurs pour une reprise du pouvoir dans le cas des malinqués ou pour une prise du pouvoir dans le cas des Peuls. Or, le brave colonel Lansana Conté, devenu général depuis, a complètement bouleversé les plans, car ce chef d'État provisoire, que l'on disait installé sur un siège éjectable, est encore au pouvoir. Il a réussi, lui, à diviser ses adversaires. Mais le pouvoir des Sosos n'est pas éternel. Après lui, les Sosos ne vont pas se maintenir au pouvoir. Donc, va arriver le moment de la grande confrontation. Qui des Peuls ou qui des malinqués va prendre le pouvoir? Alors, dans quelles conditions cela va-t-il se faire? Il est fort possible que nous assistions, là, dans les jours qui viennent, à un coup d'État militaire ou à un coup de force quelconque précédant ou suivant immédiatement la mort de l'Ansana Conte, qui est vraiment très mal. Donc, une zone là encore qui va être déstabilisée ou qui risque d'être déstabilisée, ce qui est très important, car n'oublions pas que la Guinée a des contacts frontaliers avec les pays de Sierra Leone, etc., Liberia. Donc une zone qui est déjà une zone très déstabilisée et dans laquelle nous risquons d'avoir de gros problèmes.
C'est-à-dire dans cette mosaïque, il y a déjà Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire. Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire qui sont déjà en crise et on va avoir oui. à l'ouest de la Guinée
oui,
en
oui,
plus.
Oui, il y a des chances.
Ce qui représente effectivement une évolution des plus inquiétantes.
Voilà. Il y a malheureusement de fortes probabilités de voir la contagion s'étendre à la Guinée.
Un pôle d'instabilité s'aggraver.
Un gros pôle d'instabilité. Alors, si nous passons maintenant plus à l'est, nous avons le Niger. Nous en parlerons tout à l'heure du Niger. Je laisse le Niger de côté parce que nous avons d'autres éléments à voir. Alors, pour en revenir à la question de Côte d'Ivoire, la question de Côte d'Ivoire a non seulement des répercussions politiques régionales, mais des répercussions économiques considérables, notamment aux dépens des pays enclavés. Trois pays qui sont le Niger, mais plus encore le Burkina Faso et le Mali, sont des pays qui, en grande partie, dépendent de la Côte d'Ivoire pour leurs relations avec l'extérieur. Ce sont des pays enclavés du Sahel et qui ont leur axe de relation vers le sud, à travers les grands axes nord-sud de la Côte d'Ivoire et vers les ports du littoral de la Côte d'Ivoire. Donc, là encore, des problèmes qui se posent, qui font que l'acheminement des denrées et la vente des produits se trouvent être augmenté dans les tarifs de transport, dans les tarifs de manutention, tout simplement, parce que il y a des distances qui sont ajoutées. Alors, si nous changeons de zone, nous reviendrons tout à l'heure sur le Nigeria. Si nous changeons de zone, nous vous avons vu tout à l'heure que dans la partie centrafricaine, nous avons des problèmes. Nous avons vu que la guerre du Sud-Soudan continue. Et si nous descendons encore vers le sud, eh bien, nous voyons que deux pays posent de graves problèmes, là encore. Alors, le premier de ces pays, c'est le Burundi. On ne parle pas de ce qui se passe au Burundi. Au Burundi se poursuit un génocide silencieux. Un génocide rampant et silencieux. Alors, dans le numéro de l'Afrique réelle qui va sortir dans 15 jours, le prochain numéro, le numéro 39, nous avons un très gros dossier Burundi. Parce qu'on ne parle pas du Burundi. Or, il se passe des choses terribles au Burundi. Et là, nous avons la chance d'avoir un grand spécialiste du Burundi qui nous a donné un dossier, un homme remarquable qui a été pendant 25 ans administrateur territorial au Burundi, qui parle parfaitement le Kirundi, qui connaît toutes les ficelles de la vie politique du Kirundi, qui nous a fait tout un dossier sur la partie du Burundi ancienne. Et nous avons fait un dossier sur la partie contemporaine des événements d'aujourd'hui depuis 10 ans. Un dossier qui va être très intéressant d'ailleurs parce que nous publions toute une série de vieilles photos qui sont superbes sur le Burundi au début du siècle. Photos tirées des archives missionnaires, de très très belles photos qui sont inconnues ou très peu connues ou connues des seuls spécialistes. Alors, au Burundi, ça va très mal. Ça va très mal parce que le Burundi, qui est présenté souvent comme le pays frère du Rwanda, est un pays qui est très différent du Rwanda. Dans la mesure où au Rwanda, les Tutsis étaient unis et les Hutus étaient divisés. Tandis qu'au Burundi, les Hutus sont unis et les Tutsis sont divisés. Et les Tutsis sont divisés en Tutsis du Nord et Tutsis du Sud. Comme au Rwanda, nous avions les Hutus du Nord et les Hutus du Sud. Au Burundi, l'État monarchique a été constitué par les Tutsis du Nord, qui, morphotypiquement, par l'allure générale, sont très ressemblants des Tutsis rwandais, sont des grands Tutsis. Mais cet État royal a été renversé en 1965, non pas par des Hutus, mais par d'autres Tutsis. Les Tutsis du Sud, ce que l'on appelle les petits Tutsis, c'est-à-dire les Hima, qui sont des Tutsis arrivés plus tard. L'on pense qu'il s'agit des dernières vagues Tutsis, mais ce sont des Tutsis qui sont quand même très largement métissés avec les populations de l'Afrique de l'Est, parce qu'ils ne présentent pas le morphotype traditionnel des grands Tutsis du Nord.
Ils font moins de 1m90, quoi.
Oui, voilà. Ils n'ont pas ce côté très élancé et très morphotypé des autres Tutsis. Or, ces Tutsis étaient un peu méprisés par les Tutsis du Nord, qui les considéraient comme des cousins rustaux du Sud. Et ils se sont révoltés contre leur cousin, qu'ils considéraient comme un peu trop aristocrate. Et c'est eux qui ont renversé la monarchie. Ce ne sont pas les Hutus. Mmh. Et ils ont imposé un régime républicain ethnocentré. Et quand les Hutus se sont révoltés et qu'ils ont commencé à massacrer les Tutsis du Nord, ils les ont, ces Tutsis du Sud, laissés faire, riant sous cape de voir leurs cousins du Nord se faire massacrer. Puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que s'ils n'intervenaient pas, ils allaient se retrouver tout seuls face aux Hutus. Donc ils ont lancé une répression absolument terrible, mais les Tutsis du Nord ont été quasiment liquidés. Et les Tutsis du Nord se sont repliés
sur le Rwanda.
À Bujumbura. Non, parce qu'à l'époque, le Rwanda était Hutu. Donc, ils ne pouvaient pas aller au Rwanda, ils seraient fait massacrer. Ils se sont repliés sur la ville de Bujumbura. Donc, ils ont abandonné toute la partie nord du Burundi, qui était le cœur de la monarchie du Burundi, et ils se sont rapatriés sur Bujumbura. Et depuis 1965, les Hima sont au pouvoir, à part un bref intermède de quelques semaines de pouvoir Hutu, mais qui s'est terminé en sang. Et ces Hima, qui sont au pouvoir, tiennent de moins en moins bien le pays. Parce qu'ils tiennent l'armée, qui est forte de quelques milliers, de dizaines de milliers d'hommes, mais en dehors de l'armée, ils n'ont rien. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à vaincre la guérilla Hutu, mais la guérilla Hutu n'arrive pas à les vaincre non plus. Donc, il y a eu une partition de fait qui s'est faite dans le Burundi, et ce que l'on appelle le Bututsi, dans le sud du Burundi, est tenu par les Tutsis, par les Hima, et la ville de Bujumbura, ou du moins une partie de la ville de Bujumbura, et quelques points d'appui dans la plaine de la Ruzizi, mais toute la montagne est tenue, et tout le plateau sont tenus par les Hutus. Or, le règlement international qui est en train d'être imposé au Burundi est un règlement qui va provoquer l'extermination des derniers Tutsis. Parce que ce règlement international oblige les Tutsis à partager le pouvoir et à partager l'armée. C'est-à-dire que le président va être tantôt Tutsi, tantôt Hutu, et l'armée cessera d'être monoethnique. À partir du moment où l'armée va cesser d'être monoethnique, à partir du moment où les Hutus vont tenir la moitié de l'armée, eh bien on pourra dire que la guerre civile va vraiment éclater, et que les Hutus, à ce moment-là, auront les moyens institutionnels et politiques d'en finir avec les Tutsis. Donc, nous sommes dans une situation inverse de celle qui s'est passée au Rwanda au moment de la signature des accords d'Arusha en 1993, avant le génocide. Et les Tutsis sont affolés parce que ils voient la communauté internationale leur retirer les moyens de se défendre. Et nous sommes dans un cas totalement tragique, dans lequel les connaisseurs du pays annoncent ce génocide, car il est là, et le massacre est là. Le massacre est annoncé, le massacre est programmé, mais enfermé dans ces grands principes de démocratie universelle, la communauté internationale se bouche les yeux, sans tenir compte des exemples du Rwanda, sans tenir compte des exemples de Côte d'Ivoire, sans tenir compte des exemples de tous les pays d'Afrique dans lesquels des plaquages démocratiques ont été faits sur des réalités ethniques très contrastées, veut imposer tout de même un règlement à l'européenne. Alors, les solutions, il n'y en a pas. Soit le problème sera réglé parce que les Tutsis seront tous massacrés et le problème Tutsi n'existera plus. Soit les Tutsis partageront le pays en deux, de force, entre une petite partie, une petite principauté Tutsi et un immense pays Hutu. Soit, bien, on ne sait pas très bien. Tout peut sortir de cette...
Et les Tutsis burundais peuvent compter éventuellement sur le soutien des Tutsis du Rwanda?
Je ne crois pas. Les Tutsis du Rwanda ne laisseront pas les Tutsis du Burundi se faire génocider, ethnocider, c'est bien certain. Mais ils ne vont pas entrer en guerre au Burundi pour une raison très simple, c'est que ils ont bien des choses à faire encore en RDC, nous en parlerons tout à l'heure, et ils sortent, si vous le voulez, d'une période de politique qui a failli mal se passer pour eux au point de vue international. Parce que pendant des années, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, car ils étaient le peuple du génocide. Mais le peuple du génocide, chaque année qui passe, fait que le génocide des Tutsis s'estompe dans la mémoire collective. Et le génocide des Tutsis s'estompant dans la mémoire collective, les Tutsis n'ont plus tous les droits reconnus par la communauté internationale. Et leurs dernières années de présence, ou leurs derniers mois de présence en République démocratique du Congo, se sont traduits par un certain nombre de massacres qui jusque-là avaient été pudiquement cachés par la communauté internationale et qui sont apparus au grand jour. Donc les Tutsis sont dans une situation difficile. La seule chose qu'ils pourraient faire, bien sûr, comme ce sont les mêmes de part et d'autre de la frontière, c'est de faire passer des hommes pour aider éventuellement à la constitution d'un Tutsiland. Mais ce n'est pas la politique officielle du Rwanda. La politique officielle du Rwanda est de dire qu'il n'y a ni Tutsi ni Hutu. Car si les Tutsis qui sont au pouvoir au Rwanda disaient « il y a des Tutsis et des Hutus », automatiquement, on leur dirait « mais où est la démocratie là-dedans » puisque vous êtes 20% et vous gouvernez 80% de la population. Donc pour eux, la seule solution de survie est de nier le fait ethnique. Et comme la négation du fait ethnique est l'idéologie officielle dans les pays d'Occident, quand vous voyez un Tutsi de 2m10 qui déclare à côté d'un pygmée « mais il n'y a pas de différence entre lui et moi, nous sommes rwandais tous les deux, qui est Tutsi, qui est pygmée », il est bien évident qu'à partir de ce moment-là, toutes les manipulations sont possibles. Donc les Tutsis ont eu l'intelligence de glisser sur la vague du politiquement correct négateur d'ethnie pour se maintenir au pouvoir, en disant « mais non, il n'y a pas d'ethnie ». Si, la colonisation a essayé de créer des oppositions entre nous, mais regardez comme nous nous aimons entre Hutu, Tutsi et divers peuples de la région, il n'y a pas de problème. Et ils ont raison de jouer cette carte. S'ils jouaient la carte ethnique officielle, ils seraient morts. Ils jouent la carte ethnique quotidiennement, et quand ils la jouent, en disant « regardez, nous ne jouons pas la carte ethnique, n'est-ce pas ?» Donc c'est très habile de leur part. Donc une situation très complexe dans ces régions. Alors si nous continuons à descendre, bien nous avons le Zimbabwe. Le Zimbabwe où des événements graves ont lieu, des événements qui sont des événements de contestation de pouvoir. Alors vous voyez donc ces événements d'Irak masquent cette réalité, qui est une réalité d'une Afrique en ébullition, d'une Afrique en phase d'explosion régionale. Et quand l'actualité ne se braquera plus sur le Tigre et sur l'Euphrate, eh bien, l'Afrique va refaire les premières pages des journaux.
Alors oui, il y a également d'autres pays dont nous devions parler, et en particulier donc justement le Nigeria.
Oui, alors justement le Nigeria
est dans une situation délicate.
Oui, alors là, oui, il est bien de parler du Nigeria un peu à part, bien que le cas du Nigeria s'intègre parfaitement dans ce puzzle africain dont je vous ai parlé. Alors, le problème du Nigeria à l'heure actuelle fait l'actualité parce que il y a des élections présidentielles qui vont avoir lieu dans une quinzaine de jours, mais surtout parce que il se passe des événements tout à fait intéressants dans le sud du Nigeria. Le Nigeria est un important pays producteur de pétrole, premier pays producteur de pétrole au sud du Sahara. Or, 50% de la production pétrolière du Nigeria a été arrêtée. Le Nigeria ne produit plus de pétrole, ou plus que la moitié de sa production de pétrole. Toutes les grandes compagnies ont stoppé la production dans la zone continentale et dans l'offshore immédiat, en vue des côtes, dans l'offshore lointain, non, mais dans l'offshore à quelques encablures du littoral, tout était stoppé. Pourquoi ? Eh bien parce que une guerre ethnique tout à fait importante est en train de se dérouler. Une guerre ethnique entre les tribus de la région. Alors que se passe-t-il au Nigeria ? Mais il se passe que le pétrole est concentré dans la région des États du Sud. Des États du Sud, Sud-Est, vers le delta du Niger. Et le pétrole est essentiellement concentré dans l État du Delta, parce que le Nigeria est composé d'États, d'un pays théoriquement fédération, donc l'État du Delta. Alors, qui peuvent ces régions ? Nous allons essayer de voir un petit peu, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, donner quelques clés de compréhension du phénomène. Plusieurs populations sont en conflit. Essentiellement, trois populations qui sont les îles Sérékis, les Ijaws et les Urobos. Alors, mettons de côté les Urobos qui ont un rôle secondaire dans la question et insistons davantage sur les îles Sérékis et sur les Ijaws. Alors, les îles Sérékis vivent dans l'état du Delta. Et leur capitale, leur chef-lieu, c'est la ville de Wari, W-A-2-R-2-R-I. Les éditeurs placeront ce nom sur une carte assez facilement. Les Ijaws sont originaires de l'état de Rivers, qui est situé au sud-est. Le pétrole est extrait de l'état du Delta. Or, dans cet état du Delta, qui est peuplé par les Ijaws, l'immigration des Ijaws a fait qu'aujourd'hui, les idiots sont devenus majoritaires. Donc nous avons un phénomène de transfert de population, très exactement comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec une migration des nordistes vers le sud, qui fait que dans certaines zones, même dans le pays bété, dans le pays crou bété, des nordistes sont devenus majoritaires dans certaines régions villageoises. Voilà le cadre ethnique général. Donc, le pétrole est produit dans l'état du Delta, qui est peuplé à l'origine par les îles Serekis. Immigration des Idjos. Or, les Idjos disent qu'ils veulent leur part des revenus du pétrole. Ils veulent leur part des recettes du pétrole. C'est normal. Or, les îles Serekis ne sont pas d'accord. Car les îles Serekis disent, mais nous sommes les indigènes, eux sont les immigrés. De quel droit peuvent-ils exiger les recettes du pétrole? Ce qui fait que les îles Serekis ne veulent pas partager avec les Idjos. Et des guerres ethniques ont lieu depuis des années, depuis plusieurs années. Et dans ce combat, l'armée va intervenir, l'armée fédérale. Et l'armée fédérale va intervenir au profit de qui? Au profit des îles Serekis, contre les Idjos. Alors, l'on nous dit, le président veut soutenir les îles Serekis contre les Idjos. Non, le président fait jouer le droit. Il est bien évident que ceux qui sont les agresseurs, ce sont les étrangers, ce sont les Idjos, ce ne sont pas les îles Serekis, qui en fait se trouvent envahis sur leur propre territoire. Ce qui fait que les Idjos, pour se venger, ont décidé d'attaquer les puits de pétrole, les compagnies pétrolières, les centres d'extraction de pétrole, et dans ce contexte-là, des commandos se sont livrés à des attaques en règle, et les compagnies pétrolières ont jugé beaucoup plus sûr et beaucoup plus prudent de cesser la production pétrolière dans une grande partie du Nigeria. Ce qui fait que la situation de ce pays est une situation donc qui n'est pas bonne, car tout peut sortir de cette confrontation également, parce que il peut y avoir une contagion sur les autres partie productrice de pétrole. Voilà le grand problème qui se pose au Nigeria.
Et hors de la question du pétrole, dans la partie musulmane du Nigeria, quelles ont été les réactions par rapport à la guerre d'Irak?
Ça a eu
un écho important.
Comme partout en Afrique, comme partout dans le monde musulman, des manifestations monstres, considérables, mais très désordonnées, comme partout en Afrique, des manifestations qui n'ont débouché sur rien, si ce n'est à une emprise encore plus forte du fondamentalisme musulman. Mm-hmm. On ne dira jamais assez, lorsque l'on pourra tirer les leçons de tous ces événements, à quel point cette campagne d'Irak aura favorisé l'intégrisme musulman.
Une victoire de Ben Laden.
Ah, tout à fait. Cette politique à courte vue des Américains, à moins que le but des Américains soit de prendre le pétrole en tant que puissance coloniale dans la région, et au contraire de provoquer les pires réactions du côté des peuples musulmans, de façon à pouvoir dire, regardez, on ne peut pas s'entendre avec ces gens-là, il faut les tenir en soumission ou leur faire la guerre. Alors peut-être est-ce leur stratégie? Peut-être ont-ils une stratégie de conquête coloniale du monde musulman? Mais l'avenir le dira. Alors autre pays très important sur lequel je voudrais revenir assez rapidement, c'est la République démocratique du Congo. La guerre a repris en République démocratique du Congo. Elle a repris d'une manière tout à fait tragique. Elle a repris un peu partout, à telle enseigne que le président Kabila a déclaré il y a 2 ou 3 jours que si ça continuait, il allait demander aux Angolais, aux Zimbabwéens de revenir militairement. Pour le Zimbabwe, il ne peut plus, n'a plus les moyens. Ça veut dire que nous sommes à 2 doigts d'un nouvel embrasement général au Congo.
Et au moment où une constitution venait d'être promulguée.
Et le lendemain de la signature, le 7 avril, en Afrique du Sud, de l'accord final de paix, a éclaté un des pires massacres ethniques de ces 50 dernières années. Alors, un massacre ethnique qui a éclaté dans l'Ituri. Alors, l'Ituri, c'est une magnifique région, une merveilleuse région, de l'est de la République démocratique du Congo. Alors, pour nos auditeurs, pour situer l'Ituri, la ville de Bunia, la ville de Bunia, dans l'est, nord-est du Congo Zaïre, de
la région des Zulélé.
Oui, c'est toute la région de cette, au nord de cette zone qui est tout à fait ce qu'on appelle la grande région de l'Ituri, qui est une région qui touche l'Ouganda et qui est voisine du Rwanda au sud. Alors, c'est une région intéressante, car dans cette région, mais vivent des pasteurs et vivent des agro-pasteurs. Et nous avons là encore le grand schéma traditionnel, pasteur-agriculteur. Et les pasteurs qui vivent dans ces régions appartiennent à la grande famille Tutsi. À la grande famille Tutsi, ou Hima. On les appelle les Hema. Et ce sont les mêmes qu'au Rwanda. Ce sont les mêmes que dans certaines zones de l'Ouganda. Et ce sont des populations qui sont relativement minoritaires, sont des pasteurs. Et leurs adversaires dans la région sont traditionnellement les Lendu. Et les Lendu et les Hema sont en guerre depuis les années 90. Ils sont en guerre pour diverses régions, pour des raisons de territoire, pour des raisons de pâturage, pour des raisons de rivalité, de rapte de femmes, pour tout ce que vous voulez, ils sont en guerre. Ce qui nous intéresse dans l'affaire, ce ne sont pas leurs vendetta traditionnelles. Ce qui nous intéresse dans l'affaire, c'est que la région de l'Ituri était et est toujours théoriquement sous le contrôle de l'Ouganda. Car lors de la grande invasion du Congo Zaïre par le Rwanda et l'Ouganda, cette zone de l'Ituri faisait partie du territoire que s'était attribué l'Ouganda. Or, le Rwanda lorgne sur cette région. Le Rwanda lorgne sur cette région, pourquoi ? Parce qu'il y a des richesses, mais également parce qu'il y a un peuple frère, qui est le peuple des Hema. Et comme la situation, décidément, ne s'arrange pas entre le Rwanda et l'Ouganda, il y a des intérêts qui apparaissent contradictoires. Le Rwanda soutient un mouvement Hema qui s'est créé, l'UPC, l'Union des Patriotes Congolais, et il soutient ce mouvement qui, lui, lutte contre les Lendu qui sont soutenus par l'Ouganda. Alors l'Ouganda joue un rôle très compliqué en soutenant successivement les Hema, puis les Lendu, puis les Lendu, puis les Hema. Ce qui fait que nous sommes dans une situation de génocide, d'ethnocide plutôt, dans la mesure où régulièrement nous voyons des groupes armés s'abattre sur les campements des Hema et les massacrer. Donc nous sommes là dans une situation qui est une situation qui risque de dégénérer du jour au lendemain, et une situation qui est porteuse de lourds orages.
Massacres qui viennent s'ajouter à ceux des Pygmées il y a quelques mois.
Les Pygmées, c'était plus...
Du fait de l'opposant au régime Bemba. Kabila, Bemba.
Bemba. Plus, les Pygmées, c'était plus à l'ouest. C'était dans la partie forestière de l'Ituri. Les Pygmées qui ont été attaqués, mangés...
Les massacres. On parlait de cannibalisme.
Alors, disons également que dans cette zone gravitent toujours d'anciens massacreurs Hutus, des milices qui avaient perpétré le génocide du Rwanda, et il y a donc là tous les éléments de conflagration. Et alors, l'autre élément important, le Rwanda a déclaré il y a moins d'une semaine que si la situation continuait à dégénérer dans cette partie du Congo, cela mettrait en question la sécurité du Rwanda, car les anciens génocidaires pourraient profiter de la situation pour reprendre pied dans la région, donc relancer des raids contre le Rwanda. Et le Rwanda a dit que si des raids étaient lancés, l'armée rwandaise rentrerait à nouveau au Congo, au Zaïre, en RDC, pour établir l'ordre. Donc, là encore, tout peut repartir. La guerre peut très bien repartir. Voilà, rapidement, brosser ce tableau de la situation. Y a-t-il des questions d'auditeurs? Vous les lisez, Sarah?
Non, mais vous venez de répondre à la question d'un auditeur qui vous demandait de parler des massacres entre deux ethnies qui ont eu lieu au Congo et dans lesquels l'Ouganda serait impliqué. Donc,
je rappelle aux auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Bien. Alors, passons au dernier point de l'actualité africaine.
Le prochain numéro de l'Afrique réelle.
Alors, le prochain numéro d'Afrique.
Du printemps 2003.
Oui, le numéro 39. Numéro printemps 2003. Le numéro 39, qui est un gros numéro, qui est consacré à trois thèmes. Alors, le premier thème, c'est un thème qui tourne autour de l'économie. L'économie africaine, le bilan de l'année 2002. Quel est le bilan de l'Afrique au point de vue économique au moment où se termine l'année 2002? Alors, nous avons le moyen de dresser un bilan. Ben, le bilan est triste, le bilan est assez catastrophique parce que le drame africain est également économique, avec une baisse du taux de croissance. On peut même dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a le plus faible taux de croissance depuis 1995. Or, ceci est très grave, parce que ce taux de croissance qui tourne autour de 2,7% est dramatiquement bas, car tous les projets de développement, tout le pari du NEPAD, toutes les hypothèses pour le futur étaient basées sur une croissance de 7% par an. La croissance de 7% par an permettait de ralentir la pauvreté et peut-être de gagner quelques points. Or là, nous avons une croissance qui enfonce encore davantage le continent dans la pauvreté et qui est une croissance qui voit le grand écart se faire entre les ressources alimentaires, la population et le niveau économique. Et la réduction de la pauvreté était prévue par les instances internationales. Le but était de réduire de moitié la pauvreté d'ici 2015. Mais il était prévu par la Banque africaine de développement et par l'OCDE que pour réduire de moitié la pauvreté africaine d'ici 2015, il fallait que de 2002 à 2015, l'Afrique connaisse un taux de croissance de 7%. Or, l'Afrique est à 2,7%. L'an dernier, le taux de croissance est de 3,1%. Dans tous les cas, il est bien évident que le pari ne sera pas tenu. Et les causes de ce phénomène sont bien connues, baisse des matières premières, mais baisse des matières premières sans qu'il y ait de fatalité sur les matières premières africaines, puisque le cacao a vu son prix doubler. Et la Côte d'Ivoire, grand producteur de cacao, n'a pas profité de cela parce qu'elle s'est lancée dans une guerre ethnique. Une guerre ethnique qui est venue bloquer toute envolée économique. Nous voyons donc bien qu'en Afrique, les problèmes ne sont pas économiques, mais politiques et ethniques. Quant à l'augmentation du cours de pétrole, le pétrole se stabilise ces jours-ci, mais bon, c'est pas que demain sera fait. Dans tous les cas, le pétrole a monté dans les semaines qui se sont écoulées, ce qui a peut-être favorisé 4 ou 5 pays africains, les 4 ou 5 pays producteurs, mais les 45 autres et les pays enclavés, eux, ont vu au contraire leurs factures augmenter davantage. À ces causes, il faut ajouter, bien sûr, l'instabilité. Il faut ajouter la baisse du secteur du tourisme dans les pays connaissant du tourisme, la sécheresse, etc. Alors, dernier élément d'inquiétude, la guerre d'Irak et la reconstruction de l'Irak, parce que les Américains auront tellement massacré ce malheureux pays qu'il va falloir le reconstruire. Ceci sans compter avec l'embargo depuis 10 ans. Il faut tout refaire en Irak. Et les moyens humanitaires et économiques qui vont être déversés sur l'Irak seront autant de moyens qui ne seront pas déversés sur l'Afrique. Or, ces moyens avaient été promis à l'Afrique pour son développement. Donc, cette pauvre Afrique se trouve à être dans une spirale qui est une spirale descendante et le phénomène s'accélère de jour en jour. Et ceci est fondamental. Donc, premier dossier, l'économie africaine. Premier dossier de l'Afrique réelle. Deuxième dossier, alors un très gros dossier consacré au pétrole. C'est le cœur de la revue, le pétrole. On parle beaucoup du pétrole. Eh bien, nous faisons dans ce numéro la géopolitique du pétrole en Afrique. Nous montrons toute la différence entre le pétrole nord-africain et le pétrole au sud du Sahara. Nous montrons surtout, c'est un dossier qui a été en grande partie réalisé par Aymeric Choprade, que les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire connaissent bien. Nous montrons dans ce dossier qu'il y a deux zones de production de pétrole en Afrique. Il y a les zones continentales, onshore. Alors, je vais encore recevoir des lettres d'insultes parce que j'ai pris un terme anglais, mais c'est le terme. Ah, j'ai un auditeur, un cerveau à nœud qui m'a écrit l'autre jour. Monsieur Lugan, vous avez publié un livre en anglais, je ne vous écouterai plus sur Radio Courtoisie. Je n'ai pas publié un livre en anglais, mais bon, il y a des gens qui sont des monomaniaques, hein, c'est pas leur problème, il faut les laisser, faut qu'ils soignent leur névrose, ça leur fait beaucoup de bien.
Alors, je ne sais pas si c'est le même qui vous envoie la...
Oui, mais là, c'est pas grave. Bon, il faut prendre des cachets de temps en temps, ça fait du bien, ça calme les poussées d'adrénaline. Alors, donc, son appel, dans le langage, le pétrole onshore et le pétrole offshore. Et ce pétrole africain est un pétrole qui est en partie en mer, on, offshore et onshore pour une partie autre. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une évolution très grave. Parce que le pétrole produit, extrait en mer, plus plus il est extrait au large, et plus il coûte cher, mais seulement, il est à l'abri des luttes ethniques. Tandis que le pétrole qui est extrait sur Terre, onshore, est un pétrole comme celui du sud du Nigeria, qui est menacé par les luttes ethniques. Ce qui fait qu'il est à craindre que les pays ayant les moyens de sécuriser leurs zones maritimes se contentent d'exploiter le pétrole au large, le pétrole offshore. Et à l'heure actuelle, les Américains, qui ne veulent pas s'engager dans un bourbier continental africain, sont en train d'investir uniquement dans les pays dont les capacités productrices de pétrole sont offshore, et laissent bien volontiers les Français et les autres s'embourber sur le continent mystérieux. Ils prennent des atouts, mais l'essentiel de leurs investissements se trouve précisément dans les zones faciles à sécuriser. Il suffit de mettre un ou deux bateaux ou trois, quatre hélicoptères avec des commandos marines, et les champs pétroliers seront parfaitement sécurisés. Donc,
la faiblesse des coûts de production du pétrole irakien aussi risque de défavoriser le pétrole africain.
Il y a cela aussi. Il y a tous ces éléments qui font que, de toutes les façons, le pétrole n'a pas été élément de développement en Afrique. Nous posons la question, le pétrole peut-il sauver l'Afrique? Et nous montrons également, mettons en avant les idées reçues sur le pétrole en Afrique. Alors, nous avons également, pour en terminer avec le pétrole, un article très important sur les ambitions américaines sur le pétrole africain. Et là, ce qui se passe à l'heure actuelle avec le procès ELF, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a peut-être eu des enrichissements personnels, nous ne savons pas, nous ne sommes pas juges et nous n'avons pas à commenter ce genre d'affaires. Mais les gens qui ont monté le système ELF d'implantation en Afrique sont de grands patriotes. Mais si ces gens n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, la France ne serait pas aujourd'hui présente comme elle est en Afrique au point de vue pétrolier. C'est à se demander si les campagnes de presse qui ont été lancées contre le groupe ELF à l'époque n'ont pas été téléguidées par certains services américains, tout simplement pour déstabiliser les intérêts pétroliers français en Afrique. De même, l'histoire du trafic d'armes avec l'Angola. Cette histoire a failli faire que, au moment du vote de la motion sur l'Irak à l'ONU, l'Angola ne vote du côté des Américains. Parce que les Angolais ont tellement été indignés par l'attitude de la presse française au moment de cette affaire que bien des ressentiments étaient encore présents. Alors là, ceci est fondamental parce que, au nom d'une certaine justice, qui doit peut-être être rendue, les intérêts nationaux sont gravement mis en jeu. Et ceci est fondamental. Il y a des moments où les intérêts nationaux passent peut-être avant autre chose. Troisième élément que nous traitons dans le dossier de l'Afrique réelle, le Burundi. J'en ai parlé tout à l'heure, un gros dossier sur le Burundi. Un numéro, donc, que les abonnés recevront d'ici trois semaines. J'ai donné le bon à tirer hier matin, donc le numéro sera chez les abonnés d'ici trois semaines, je pense, environ. Voilà, donc le numéro 39, nous donnerons tout à l'heure
redonner tout de suite l'adresse.
Oui, allez-y, Victoria, oui.
Donc, oui, on a supprimé boîte postale, vous m'avez dit.
Oui, non, mais c'est inutile.
Afrique réelle, donc, 03 140 Charroux, avec deux R, 58 €, comme abonnement annuel, pour quatre numéros.
Oui, les abonnements sont des abonnements annuels, et tout abonnement souscrit à partir du numéro 39 est un abonnement qui permettra aux abonnés de recevoir également le numéro 38 et les deux autres numéros de l'année 2002 apparaître. Et c'est donc un abonnement pour ces quatre numéros.
Un auditeur vous demande qui arme toutes ces ethnies en conflit.
Oh, vous savez, les armes, il n'y a rien de plus facile à trouver que des armes. D'autant plus que les armes qui sont utilisées ne sont pas des armes bien compliquées. Les kalachnikovs circulent partout en Afrique. Vous achetez un kalachnikov pour 10 $, n'importe où en Afrique. Il y a eu des millions d'armes qui ont circulé à l'occasion de divers conflits africains. Et lorsqu'il n'y a pas de kalachnikov, eh bien la machette fait son travail. Le massacre des Hema par les Hindous s'est fait à la machette. Il n'y a pas eu besoin d'armes. Quand les conflits africains ont ce côté tout à fait particulier d'être de faibles consommateurs d'armement, sauf les conflits de type classique comme la guerre d'Angola lorsqu'elle avait lieu, car là nous étions en présence d'une quasi-guerre classique. Mais les oppositions africaines ne sont pas des vraies guerres. Il est bien évident que face à des troupes européennes, britanniques ou françaises, je ne parle pas américaines, parce que les Américains montrent là encore en Irak leur grande faiblesse au point de vue infanterie. Ce sont les Anglais qui font le sale boulot. Ce sont les Anglais qui sont au contact des zones ou qui font la vraie guerre. Les Américains bombardent, écrasent, massacrent et démolissent tout sur leur passage, comme des éléphants dans des magasins de porcelaine. Mais face à des vraies troupes européennes, britanniques, espagnoles, portugaises, françaises ou belges, ces rébellions africaines n'existeraient pas. Et bien évident, ce sont des rébellions très très ethniques. Il n'y a pas de grandes organisations, sauf dans le cas de certains pays parfaitement organisés, qui peuvent développer à longue distance des actions combinées ou autres. L'Angola, dans sa zone, le Rwanda, dans la sienne, trois ou quatre pays qui sont à un niveau, et l'Afrique du Sud, bien sûr, le Zimbabwe, disons une poignée de pays ayant une capacité militaire supérieure. Dans les autres cas, nous avons affaire à des rébellions ethniques ou tribales. Donc, avec quelques armes individuelles, il est possible de faire des guerres qui durent longtemps et qui sont en fait peu consommatrice de vies humaines.
Et un autre auditeur demande, pensez-vous que le président Chirac et le Quai d'Orsay vont saisir l'opportunité de notre position en Irak pour renouer de bonnes relations culturelles et commerciales avec tous ceux qui l'approuvent en Afrique?
Le problème est d'en avoir les moyens. Il est une chose d'être bien vu et d'être en sympathie, il en est une autre d'avoir les moyens de la politique. Il est bien évident que la France n'a pas les moyens d'une politique en Afrique. L'Europe elle-même n'a pas les moyens d'une politique de développement en Afrique. Elle n'a pas les moyens économiques, mais surtout, elle n'a pas les moyens doctrinaux. Car il faudrait, pour cela, réfléchir sur les conditions du développement, réfléchir sur les conditions de l'évolution politique. Or, ce que nous faisons en Afrique, c'est de l'automatisme de l'aide. Et ce que nous faisons en Afrique, c'est de nous persuader que la recette démocratique va être la solution à tous les maux de l'Afrique. Ce qui est une aberration, et nous voyons qu'au contraire, cette solution démographique amplifie les maux de l'Afrique. Donc, la situation n'est pas évidente. Ce d'autant plus que la France n'a pas les moyens, à elle seule, de supporter l'Afrique.
Peut-être un petit commentaire, Bernard, à propos de la loi qui a été votée en France interdisant le mercenariat. Comme on sait que l'Afrique était l'un des cadres privilégiés de ce type d'intervention, qu'en pensez-vous ?
Une fois de plus, la France s'interdit de faire ce que font les autres. Le mercenariat, ne parlons pas du bien fondé du mercenariat, d'autant plus que les dernières opérations mercenaires ont été un peu branquignolesques. Mais il y en a eu par le passé qui ont été de sacrées réussites quand elles étaient bien organisées. Alors bon, quand elles sont bien organisées, elles peuvent être le moyen pour le gouvernement d'intervenir là où il ne veut pas intervenir. Et si si ça tourne mal, ce sont les mercenaires, nous n'y sommes pour rien, quitte à les exfiltrer, comme nous savons très bien le faire. Eh bien, en faisant cela, la France se prive des moyens qui sont largement utilisés par les anglo-saxons, notamment par les sud-africains et par les britanniques. Et là encore, la France va se mettre sur la touche. Et nous sommes dans une totale contradiction. Au nom des grands principes, au nom de la grande philosophie universelle et des grandes idées, eh bien, nous butons contre notre camp. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'affaire Elf ou de l'affaire des soi-disant trafic d'armes avec l'Angola. Je ne me prononce pas sur le bien fondé de l'action judiciaire. Ce n'est pas du tout mon intention et je me refuse de le faire. Je dis simplement à qui profite l'éclatement de tels scandales. Certainement pas aux intérêts français. L'éclatement de tels scandales profite à ceux qui veulent au contraire affaiblir la France. Et quand l'on voit de quelle manière cynique se comportent les Américains dans ce domaine pétrolier et dans le domaine du trafic d'armes, l'on se demande s'il n'y a pas une manœuvre destinée à écarter des concurrents. On se le demande de moins en moins. La réponse est beaucoup plus claire que mon interrogation. Bien.
Monsieur Lugan,
oui.
Vous êtes le seul à avoir compris le problème des ethnies. Je vous dis bravo.
Merci. Auditeur ou auditrice?
C'est uniquement des auditeurs.
Ah, bah, auditrice.
Les auditrices décrochent. Émission fort intéressante. Quelle est l'incidence du sida sur le développement social et économique?
Il est important dans certains pays d'Afrique. Le problème du sida... en fait, le problème du sida n'est pas tellement un problème de démographie. C'est un problème de développement culturel et économique. Je m'explique. Le sida touche les catégories sociales les plus évoluées en Afrique. Les catégories sociales les plus évoluées, qui sont généralement des catégories citadines, et elles sont touchées, pourquoi ? Parce que le sida se transmet par les rapports sexuels normaux en Afrique. Ce ne sont pas du tout par les rapports sexuels homosexuels comme en Europe, parce que c'est, en Afrique noire, l'homosexualité n'a pas du tout la même présentation qu'en Europe et est considérée comme bien souvent comme une abomination parmi les abominations.
Certains présidents du Zimbabwe en pensent beaucoup de mal, je crois.
Donc, ce sont des rapports qui sont faits en raison du nombre des maîtresses. Or, plus vous avez de l'argent et plus vous avez des maîtresses. Vous avez un premier bureau, un deuxième bureau, un troisième bureau. Alors, je l'ai souvent expliqué, c'est très simple. Quand vous êtes très riche, vous contrôlez vos maîtresses, car vous leur donnez suffisamment de quoi vivre pour qu'elles n'aillent pas trouver un deuxième ou un troisième protecteur. Bien. Mais plus vous descendez dans la hiérarchie sociale et plus vous êtes obligé de partager vos maîtresses avec d'autres, car vous n'avez pas les moyens d'entretenir un train de vie aussi important. Vous devez entretenir votre troisième bureau à plusieurs. Et c'est à ce moment-là que la circulation du sida se fait. Et c'est pour cela que ce sont les élites qui sont les plus touchées par le sida, ce qui est très grave, car ces élites représentent la force motrice de l'Afrique, représentent la matière grise de l'Afrique. Et l'Afrique est en train de perdre ses élites à la fois par le sida et à la fois par l'immigration. Par la nouvelle traite des Noirs, qui est constituée par l'immigration. C'est-à-dire que les diplômés africains se font employer dans les pays dans lesquels ils ont suivi leurs études, et ils ne retournent pas au pays. Pas uniquement l'Afrique noire. Pas uniquement l'Afrique noire, au Maghreb également. Au Maroc, à l'heure actuelle, qui est un pays qui est très proche de nous, qui est un pays qui est terriblement développé par rapport à l'Afrique noire. La fuite des cerveaux et devient dramatique. Des promotions entières d'élèves ingénieurs disparaissent. L'an dernier, la promotion entière d'une des plus grandes écoles d'ingénieurs marocaines est partie à l'étranger. Elle est partie à l'étranger, elle a rejoint les pays francophones. Et au Canada, ils sont accueillis les bras ouverts. Au contraire, on favorise leur installation. Mais en faisant cela, ceux qui accueillent ces diplômés ne se rendent pas compte qu'ils rendent le plus mauvais service à l'Afrique. Car l'Afrique perd ses diplômés. Et dans le siècle qui s'ouvre, dans le millénaire qui s'ouvre, l'Afrique va être le continent ayant la plus grande masse d'illettrés et ayant, dans cette grande masse d'illettrés, aucune chance de s'en sortir. Car les élites sont à la fois tuées par le sida et les autres émigrent. Donc l'Afrique est tuée par les deux bouts. Ce qui est vraiment dramatique. Et l'Afrique se retrouve être avec une quantité d'orphelins considérable. Plus que par la démographie, les conséquences sont sociales, économiques et politiques. Voilà.
Là, c'est un auditeur qui a dû prendre l'émission en route, qui vous demande ce qui se passe en République centrafricaine. Donc je peux lui dire qu'il écoute l'émission qui sera rediffusée demain matin à 7h30.
Oui, cher auditeur.
Parce que vous l'avez traité tout à l'heure.
Voilà, tout à fait. Bien.
Un dernier mot.
Oui.
Pouvez-vous nous parler de votre feuilleton judiciaire? Y a-t-il un nouveau chapitre concernant les affaires de la Noé Chaise Martin?
Non, je vous en parlerai quand il y aura du nouveau. Pour le moment, il n'y a rien de particulier. Il y a des choses amusantes qui se passent, mais nous ne pouvons pas en parler. Nous en parlerons plus tard, mais je réserverai la primeur de cette information aux auditeurs de Radio Courtoisie. Dans la série du long feuilleton, nous en parlerons à ce moment-là. Une petite pause musicale, parce que nous avons tous besoin de souffler. Et une très belle pause musicale. Le morceau que vous allez écouter est un très beau morceau.
Au fond de ma pensée, au fond de tout ça.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquet, se dirige ce soir par Bernard Lugan. Nous saluons l'entrée dans notre studio de Dominique Vénère qui nous rejoint. Eh bien, chers auditeurs, ce merveilleux morceau que vous venez d'entendre est tiré du Requiem des rois de France, de Duc au roi. Victoria donnera tout à l'heure toutes les références de cette disquette.
Et alors, pendant... Oui. Pendant cette pause musicale, les femmes ont réagi.
Ah, tout de même.
Non, les auditrices ne décrochent pas, elles écoutent passionnément Bernard Lugan.
Oh, mais non, c'est... Ah,
les je femmes... que lui.
Anna, vous n'étiez pas là, Dominique.
Les femmes n'ont pas décroché puisque je vous écoute. Et je vous pose une question. Ah. Deuxième bureau est un terme typiquement africain.
Oui.
En France, personne ne connaît ce terme.
Ben, premier bureau, c'est la première maîtresse. Deuxième bureau, la deuxième maîtresse. Troisième bureau, la troisième maîtresse.
Oh mon Dieu, nous
dérapons. Et en fonction de la richesse du personnage, on rejoint son quatrième, son cinquième ou son sixième bureau.
Le quatrième bureau, qui est celui de logistique, d'ailleurs.
Ah, et de l'emploi.
Donc il faut des moyens importants
et de l'emploi. Pour le quatrième bureau. Voilà.
Une autre auditrice vous demande la différence entre chiite et sunnite.
Mais c'est tout à l'heure. Nous en parlerons au moment de l'Irak. La différence entre chiite et sunnite. Gardons ça sous le coude pour tout à l'heure, Victoria. Bien. Des annonces, Victoria.
Alors, allons-y pour les annonces. Demain, jeudi 10 avril, dans le cadre des conférences de Saint-Germain organisées par la Librairie nationale, donc demain jeudi 10 avril à 20h30, salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e, conférence de Philippe Almeras sur le thème « Comment peut-on lire Céline ?»
Grande manifestation à Paris organisée par l'association Voix des Français contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.
Ah, c'est très bien.
Elle aura lieu le samedi 26 avril à 14h30. Rendez-vous place d'Enfer Rochereau, côté boulevard Raspail, métro d'Enfer Rochereau.
Redonnez la date, Victoria.
26 avril à 14h30. Et pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez téléphoner au 01 42 67 22 05 ou au 01 46 03 55 99. Ensuite, la Convention nationale pour l'unité des mouvements souverainistes. Le samedi 26 avril, de 9h à 18h, ASIEM, 6 rue Robert-Albert de Lapparent, dans le 7e, avec la participation de Jean-Paul Bled, Alain Bournazel, Paul-Marie Couteau, Général Pierre-Marie Gallois, François-Xavier Le Guibert, Pierre Maillard, Michel Pinton, Pierre Pugeot, Philippe de Saint-Robert, Philippe de Villiers, etc. Pour tout contact, adressez-vous à Anne de Vorex, téléphone 01 34 75 19 05.
Redonnez le numéro de téléphone peut-être.
01 34 75 19 05. Et la Vigne, association culturelle, organise.
Non, ce n'est pas
la Vigie, la Vigne. Oh, mais écoutez.
Non, Victoria.
Je suis obsédée par.
Victoria. Par la Vigne.
Je monte.
C'est une agréable obsession.
Très, très, très.
La Vigie.
La Vigie, association culturelle, conférence débat, 30 000 ans d'identité européenne. C'est animé par Dominique Vénère, le mardi 29 avril, à 20h30, précise, au Novotel Créteil, Le Lac. Renseignement 06 09 16 21 32. Moi, je ne sais pas ce que j'ai lis là.
Je précise aux auditeurs que nous buvons que de l'eau dans le studio. Et Victoria,
c'est
qui parle de vie, qui
je
parle
manque
de vie.
De...
Qui parle de vigne et qui bafouille.
Ah bah bien. Bravo.
Bravo. Pas d'autres annonces, Victoria.
Non, c'est terminé. La dernière.
Nous rappelons l'adresse de l'Afrique réelle et nous allons passer ensuite à l'Irak.
Donc, Afrique réelle, 0340, Charroux. L'abonnement annuel coûte 58 euros pour 4 numéros.
Merci, Victoria. Alors, bonsoir, Dominique Vénère.
Bonsoir à tous.
Nous venons de mener une longue course africaine. Qui nous a conduit.
Mais je vous ai suivi à bord de ma voiture.
Ah, vous avez même la radio à bord de la voiture.
Oui.
C'est formidable.
Les historiens sont capables de vivre dans le monde d'aujourd'hui.
Très bien. Alors, au point de vue technique, je vais tout de suite attirer votre attention sur un point bien précis. Il nous reste 6 minutes avant la coupure technique de 7h30, de 19h30. Ce qui fait que notre ami Philippe Conrad, qui va ouvrir le feu, va devoir, sur la première question que je vais lui poser, faire une synthèse en 7 minutes. Mais Philippe est capable de tout. Et Philippe, la question que je voulais vous poser, car nous passons maintenant à la seconde partie de l'émission, nous allons étudier ce que je vous disais tout à l'heure, la longue durée de cette question du Tigre et de l'Euphrate, de ces empires, de cette terre fertile, de cette zone berceau d'une grande partie de ce qui fut la civilisation orientale. Et j'aimerais que vous nous précisiez tout de suite, que vous nous définissiez la terre d'Irak, le pays et les hommes. Nous parlerons tout à l'heure de l'histoire.
Oui. Alors l'Irak dans ses frontières actuelles, qui est un petit pays un petit peu moins étendu que la France, comprend essentiellement trois parties. Une partie vitale qui est la vallée des deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, l'ancienne Mésopotamie, la terre entre les deux fleuves, selon l'étymologie grecque de ces Mésopotamos. Et à l'est, vous trouvez la chaîne des monts Zagros qui sépare ces vallées fertiles du plateau iranien. Et puis, à l'ouest, c'est le désert jusqu'aux régions à nouveau verdoyantes des côtes méditerranéennes à hauteur de la Syrie. La Mésopotamie, l'Irak, c'est la branche en quelque sorte orientale du croissant fertile.
Alors, les hommes qui vivent sur cette terre.
Mais les hommes d'abord sont installés sur cette terre depuis très longtemps, et c'est sur cette terre, pour une part, que s'est forgé ou se sont forgées les premières civilisations de l'humanité. Et cela, il y a maintenant 5 ou 6 millénaires. Nous sommes là dans des régions où s'est produite, en même temps qu'en Asie Mineure, en même temps qu'en Palestine, la révolution néolithique. Et c'est là ensuite que l'on voit apparaître donc les premiers grands foyers de civilisation urbaine, avec la civilisation sumérienne. Ensuite, se développe derrière les grandes époques d'Ur, la civilisation d'Akkad. Ensuite, nous voyons se développer l'empire de Babylone, notamment à l'époque d'Amourabi. Cette région est une région de contact, une région d'invasion. Les Kassites indo-européens descendus du plateau iranien s'y installent. Des raids hittites ont lieu jusqu'à Babylone depuis l'Asie mineure. Et nous allons avoir ensuite l'expansion de l'empire assyrien au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, suivi par un empire néo-babylonien, celui de Nabucodonosor, sera finalement subjugué par la conquête perse achéménide.
Je voudrais revenir aux périodes plus anciennes. Vous parliez du Zagros tout à l'heure. Ouais. Donc le Zagros se situe en Iran.
La limite, c'est les monts Zagros, c'est une espèce de diagonale nord-ouest-sud-est qui sépare donc les régions de plaines correspondant aux deux vallées du Tigre et de l'Euphrate du plateau iranien.
Parce que la région du Zagros semblerait être, d'après les travaux archéologiques, une des zones les plus anciennes pour la domestication du bétail et pour la sélection des graminées.
Oui,
et de
c'est à peu près contemporain de ce qui se passe en Asie mineure, à Tchataloyouk, voilà. ou dans certains endroits de Palestine.
Un foyer d'apparition.
C'est un des foyers de la révolution néolithique.
Donc nous sommes là, véritablement, au cœur historique de ce qui va devenir l'ensemble de l'Orient à l'époque du néolithique et à l'époque des grands empires.
À l'époque des grands empires, et cela sur plusieurs millénaires.
Alors, à l'époque où ces premiers balbutiements se font sentir dans le Zagros, géographiquement, à quoi ressemble cette région de Mésopotamie entre les deux fleuves? Quel est le biotope?
À cette époque-là, le milieu est celui que nous connaissons actuellement. Ce milieu est installé, est établi depuis environ 10 000, 8 000 avant Jésus-Christ.
Et les premiers habitants de la région, qui sont-ils? Qui sont les hommes au sein les hommes qui vont inventer l'agriculture, qui vont inventer la domestication?
Alors, ceux-là, on les connaît assez mal, parce que nous sommes avant, évidemment, la révolution de l'écriture qui sera apportée par les Sumériens.
Sommes-nous chez des Indo-Européens ou sommes-nous...
Ah non, c'est antérieur aux Indo-Européens.
Nous sommes en présence de qui à peu près? Quels sont les grands groupes linguistiques qui se...
Ah ben, je crois qu'on les groupes linguistiques on ne les connaît on, pas on faute connaît de pas. Connaître les langues pratiquées à l'époque.
Alors qui sont les ancêtres des Babyloniens?
On commence à avoir des données à ce sujet avec la civilisation sumérienne.
Alors, et qui sont les ancêtres des Sumériens? Viennent-ils de quelque part ou bien sont-ils sur place? On ne sait pas.
Bon, je pense que pour le moment, ça serait très aventuré d'avancer des hypothèses
On peut donc dire que nous commençons à avoir des connaissances précises à partir de quand?
À partir du quatrième millénaire, troisième millénaire avant Jésus-Christ, donc qui voit l'essor, l'éclosion de la civilisation sumérienne.
Dominique Venner.
Oui, un simple mot pour dire que la révolution néolithique, on le sait maintenant, s'est développée en Europe d'une façon autonome par rapport à l'Orient.
Ben, nous le savons. Et Colin Renfrew déjà en avait parlé, mais nous avons des confirmations maintenant.
Mais un petit peu plus tardivement.
Ex-Oriente Lux est de plus en plus contesté, n'est-ce pas? Il y a des foyers autonomes. De même que pour les origines de l'homme, l'origine unique de l'homme est de plus en plus contestée. Nous avons des zones d'émergence plurielles, ce qui est tout à fait intéressant à savoir, contrairement à ce que le politique scientifico-correct officiel veut nous faire croire. Bien. Alors, nous avons donc là le paysage, la terre qui a été brossée, les premiers hommes qui arrivent et l'histoire de la région qui va véritablement éclore à partir de ce moment-là, qui va apparaître. Et nous en parlerons après cette coupure technique. Je rends l'antenne au studio.
Merci de passer la soirée en notre compagnie. À 21h tout à l'heure dans les soirées musicales Série Jazz et à 22h les musiques de films avec un programme varié ce soir proposé par Claudio. Et puis tout de suite la deuxième partie du Libre Journal de Serge Beketch. Je vous rappelle que cette émission est dirigée ce soir par Bernard Lugan. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 avril 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 10 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Dans cette seconde partie d'émission, pendant une heure et demie, nous allons parler donc de la longue durée historique de l'Irak et de ce qui a précédé l'Irak. À ce propos, une question me vient tout de suite à l'esprit, Philippe Conrad. Peut-on dire, est-il légitime de dire, que l'Irak d'aujourd'hui se trouve être l'héritière de Babylone ?
Oui, ça me paraît évidemment un petit peu anachronique, mais tous les régimes politiques ou toutes les nations émergentes, comme l'était la nation arabe irakienne, ont besoin de mythes fondateurs, et il est clair que le régime baasiste a fait référence à Babylone, à Nabucodonosor, l'une des divisions de la garde républicaine s'appelait la division Hammurabi, par exemple, également ce régime faisait référence aussi à Saladin, par exemple, natif de Takrit, comme Saddam Hussein, pour se donner en quelque sorte une dimension historique, une mémoire nationale enracinée dans le plus long passé. Il est normal pour un pays installé ou pour un État ou pour un peuple installé en Mésopotamie de faire valoir évidemment ses origines. Il en va de même pour les Égyptiens quand ils exaltent le passé pharaonique de leur pays. On a connu en Europe à notre époque également des références de ce type. Rome perçue comme mythe fondateur pour le régime mussolinien, c'est un petit peu un cas analogue.
Mais politiquement, ethniquement, religieusement et philosophiquement,
Oui, religieusement, évidemment.
Évidemment.
Le monde de Babylone est un monde englouti, est un monde disparu
ethniquement.
Depuis une lointaine antiquité. Et ethniquement, effectivement, des vagues successives d'envahisseurs n'ont cessé d'arriver dans cette région, même depuis la plus haute antiquité. J'évoquais tout à l'heure les Cassites indo-européens, par exemple, qui débarquent dans la région au deuxième millénaire. Il y en eut d'autres ensuite, et de très nombreux, et jusqu'à en pleine période médiévale. Nous avons encore des Turcs, des Mongols qui déferlent sur ces régions, qui constituent une région carrefour dans cette zone proche-orientale.
Alors, Philippe Conrad, Babylone va disparaître.
Et
comment se produit ce phénomène,
Babylone disparaît après les fastes de l'empire néo-babylonien de Nabucodonosor ou de Nabonide. Babylone va disparaître sous les coups des Perses achéménides qui vont bâtir l'immense empire que l'on sait s'étendant depuis l'Indus jusqu'au Nil et jusqu'aux rives de la Méditerranée. Et après cette période de l'empire achéménide qui va durer jusqu'à la fin du IVe siècle. On sait très bien comment cet empire sous Darius III va être renversé. C'est l'épopée d'Alexandre qui va en finir avec cet empire achéménide. Et à ce moment, Babylone, où mourra d'ailleurs Alexandre au retour de son expédition en Inde, Babylone va tomber dans l'espace de la civilisation grecque hellénistique. Ces régions de Mésopotamie vont faire partie de l'empire séleucide à l'époque des Diadoques, donc des successeurs d'Alexandre. Mais ces régions de Mésopotamie vont être constamment disputées avec des nouveaux venus du plateau iranien, qui sont notamment les Parthes. Et après la période hellénistique, ce sont les Romains qui prendront le relais sur cette frontière, sur ce limès de l'Euphrate.
Frontière difficile.
Et frontière tout à fait difficile, et qui s'affronteront de manière quasiment constante avec les Parthes, et puis ensuite avec l'Empire sassanide, qui se constitue au IIIe siècle après Jésus-Christ, et qui va contrôler la région, cette région de Mésopotamie, jusqu'au 7e siècle, jusqu'à la conquête arabe.
Plus encore que la frontière de Germanie, on peut dire que la frontière de cette zone fut la frontière la plus contestée à l'époque romaine.
Oui, parce que les Romains avaient affaire à un empire, l'Empire Sassanide, qui était d'une pointure, à certains égards, comparable à celle de l'Empire romain, en termes de moyens, d'organisation politique et militaire, alors que sur la frontière germanique, ils avaient affaire à des peuples qui n'avaient pas atteint, évidemment, même degré de développement sur le plan politique.
Et l'Empire romain est divisé. Nous entrons dans la grande période de l'Empire byzantin. Que se passe-t-il ?
Alors, à cette époque de l'Empire byzantin, l'essentiel de la Mésopotamie est sous la domination de la Perse sassanide. Les Sassanides vont même pousser très loin leur conquête quelques décennies seulement avant la conquête arabe. Moyennant quoi, à l'époque de l'Empire byzantin, Héraclius, les Byzantins prendront leur revanche. C'est une époque extrêmement troublée sur le plan territorial dans cette région, sur le plan religieux aussi. On voit se diviser les chrétiens entre nestoriens, monophysites, etc. Et finalement, ces conditions vont favoriser un événement évidemment majeur dans ce qui va devenir l'Irak. Eh bien, c'est bien sûr la conquête arabe, avec la grande victoire remportée par les Arabes à Al-Qadisiyya en 637, qui est un événement absolument fondateur de l'Irak musulman. Victoire remportée sur la Perse sassanide. Les Sassanides qui considéraient avec beaucoup de dédain les Arabes qu'ils appelaient les mangeurs de sauterelles et qui avaient entretenu pendant quelque temps des espèces de royaumes arabes tampons sur leurs frontières du sud-ouest vont être vaincus au moment où l'islam sort d'Arabie après la mort du prophète qui intervient en 632 et dès 637 donc sur ce front mésopotamien la grande victoire d'Al-Qadisiyya va ouvrir aux Arabes bien sûr la conquête du pays des deux fleuves mais au-delà au cours des années qui vont suivre immédiatement, dès 642, et Francis le Sagros, et après la victoire remportée à Néavend, ils s'imposent dans l'ensemble du plateau iranien, ils vont pousser comme ça jusqu'au Sind, jusqu'au cours inférieur de l'Indus, d'une part, et puis jusqu'en direction de l'Asie centrale, où ils vont même se heurter aux Chinois au milieu du 8e siècle.
Les Arabes sont maîtres de ce qui va devenir l'Irak ultérieurement, à partir de quand ?
Ah ben, ils sont maîtres de l'Irak à partir de cette victoire de 637, et ils imposent leur autorité très rapidement.
rapidement avec la fondation d'un certain nombre de villes, avec la fondation de Bassora et de Koufa notamment, qui joue le rôle un petit peu en Irak de ce que sera le rôle de Kairouan, que vous connaissez bien en Tunisie, c'est-à-dire une sorte de base d'opération, ou de le rôle d'Al-Fustat qui deviendra le Caire à la pointe du détroit du Nil. Et les Arabes vont très vite conquérir conquérir le pays, s'y imposer. Et en même temps, ce pays va devenir le théâtre aussi des divisions entre les conquérants.
Une question avant de cela. La seule zone non islamisée va être le pays kurde.
Oui, parce que ce sont des régions montagneuses, des régions qui jouent le rôle de montagne refuge dans des contextes d'invasion. C'est un petit peu le rôle de la Kabylie en Afrique du Nord au moment des invasions hilaliennes, ça sera le rôle des monts Cantabriques au moment de la conquête arabe de l'Espagne. Le pays kurde qui est l'héritier un petit peu de ce qu'était l'ancien Mitanie au deuxième millénaire, pays kurde qui est de population indo-européenne, dans lequel il y a des éléments galates sans doute aussi qui sont venus se mêler à l'époque des invasions celtiques en Asie mineure. Ce pays kurde sera islamisé, mais il sera islamisé très lentement, beaucoup plus tard, et sous des formes très particulières. C'est un petit peu comme l'islamisation du Caucase, si vous voulez, avec un rôle très important pour les confréries. C'est un petit peu dans un temps ultérieur que tout cela va se réaliser.
Et un rôle important pour la femme également, qui n'aura pas le statut inférieur qu'elle aura dans le monde musulman.
Oui.
Alors, question, les Byzantins ont-ils une politique kurde ?
Non, pas à ma connaissance.
Que vont faire les Kurdes pendant toutes ces périodes, ces longs siècles d'opposition sur la frontière byzantine?
Ils vont jouer comme les Turcs, ils vont jouer un rôle de mercenaires. Souvent, Saladin était un Kurde, et beaucoup d'éléments kurdes vont contribuer à construire la force militaire du califat de Bagdad une fois que celui-ci sera constitué, donc au milieu du 8e siècle.
Alors, j'en reviens à ce que vous disiez sur la question de la division des concurrents. Et vous voulez bien sûr entendu parler du chiisme et des grandes divisions religieuses.
Oui.
Alors, nos auditeurs nous posent de nombreuses questions sur ce sujet. Parlez-nous un peu du chiisme. D'abord, le foyer d'origine.
Ça touche directement à notre sujet de ce soir, parce que, contrairement à ce que pensent les gens qui, quand on évoque le chiisme, pensent en priorité à l'Iran, il faut savoir que l'Iran est devenu, le chiisme du haut des Simains est devenu la religion officielle de l'Iran seulement au début du XVIe siècle. En revanche, à l'époque des origines de l'islam, c'est l'Irak et notamment les régions le cours inférieur des deux fleuves. C'est là que se trouve véritablement, à Bassora, à Koufa, dans ces régions, le foyer originel du chiisme. C'est là qu'il va se développer, c'est là qu'il va voir se dérouler l'essentiel de son histoire pendant toute la période de l'islam médiéval. Hein. Alors, pour répondre à votre question concernant le chiisme et ses origines, je vais essayer d'être le plus simple possible. Mohamed avait un gendre, Ali, qui était en même temps son cousin, et ce personnage, dont certains pensaient faire le successeur du prophète, avait été, en raison de son jeune âge, écarté dans un premier temps, et c'est un beau-père du prophète, Abou Bekr, qui avait été le premier calife. Et après deux autres califes, qui s'appellent Omar et Othman, Ali, donc, est devenu le quatrième calife. Mais il s'est très vite opposé, il est entré en conflit avec un parent d'Othman, son prédécesseur, qui appartenait à la famille des Oumayas, ce que nous appelons les Omeyyades. Et cette lutte entre Omeyyades et partisans d'Ali va déboucher sur une véritable guerre qui va se livrer d'ailleurs essentiellement en Irak. C'est en Irak qu'Ali va avoir l'essentiel de ses partisans, alors que le champion du camp Omeyyade, Moawiya, a ses partisans surtout en Syrie, dont il était le gouverneur. Et à la faveur de ces luttes, les partisans d'Ali vont même se diviser, puisqu'une partie d'entre eux, les Kharijites, ceux qui vont se séparer d'Ali, vont lui reprocher sa volonté de compromis avec l'adversaire. Et c'est par un Kharijite à Koufa que Ali d'ailleurs sera assassiné. Et alors donc, faute d'un des camps, les Omeyyades vont l'emporter, mais Ali conserve des partisans. Il avait deux fils, Hassan et Hussein. Le fils aîné Hassan a passé un compromis avec les Omeyyades, il ne revendique rien. En revanche, quand Moawiya va mourir, et quand son successeur Yazid prend le pouvoir à Damas, eh bien, Hussein, lui, répondant à l'appel des habitants de Karbala, des habitants de l'Irak, donc de Mésopotamie, qui voulaient se soulever contre Yazid, va se rendre à Karbala, et c'est là que va se situer en 680.
1680, le fameux meurtre de Hussein, qui constitue l'événement fondateur, le mythe fondateur de la tradition chiite. Et alors à partir de là, le chiisme va être une force d'opposition, une force révolutionnaire dissidente de manière quasiment continue par rapport au pouvoir omeyyade de Damas. Quand ce pouvoir omeyyade de Damas sera balayé, renversé en 750 et que le califat passera de Damas à Bagdad sous la dynastie des Abbassides, les chiites dont l'opposition avait contribué à la victoire des Abbassides seront encore les oubliés de l'histoire, on se passera d'eux et ils continueront à représenter une force d'opposition et le sud de l'Irak notamment sera un foyer de rébellion, un foyer d'opposition quasiment constant au cours des siècles suivants et ce chiisme ensuite va se diviser en diverses tendances puisque dans la tradition chiite, la révélation ne s'arrête pas avec le prophète et avec la tradition, la sunna, qui est la compilation des hadiths et puis de ce que la communauté musulmane considère comme ayant été l'attitude du prophète. Les descendants d'Ali sont porteurs eux aussi de la révélation, ceux que l'on appelle les imams. Et ces imams, dans un environnement hostile, dans un environnement qui leur est opposé, finalement vont disparaître à la vue des fidèles. Pour une partie de la tradition chiite, ça se passe à partir du septième imam. C'est ce qu'on appelle les chiites septimains ou ismaéliens, puisque cet imam en question s'appelait Ismaïl. Pour d'autres, c'est au niveau du douzième imam. Et on a affaire là aux chiites duodécimains, qui sont représentés, par exemple, aujourd'hui en Iran.
Dominique Venner.
Oui, question à Philippe Conrad. Y a-t-il un support historique, culturel, ethnique à ce schisme des chiites?
Géographiquement, c'est essentiellement au départ et dans toute la première phase de l'histoire du chiisme, essentiellement l'Irak et le sud de l'Irak, mais il y aura effectivement un certain nombre d'excroissance de ce courant chiite dans diverses régions en fonction des conditions historiques. On verra par exemple se constituer une principauté chiite à Bahreïn au cours du Moyen Âge au XIe siècle, je crois, après la répression d'une révolte chiite en Irak. On verra les chiites sous le nom de Zaïdites se développer également au Yémen. On verra le chiisme ismaélien septimain connaître un certain succès en Iran, mais aussi en Égypte et en Afrique du Nord, puisque toute l'histoire du califat fatimide se situe dans ces régions-là. C'est un mouvement qui démarre en Afrique du Nord.
C'est un mouvement berbère.
Berbère, et qui ensuite va partir à la conquête de l'Égypte, où s'installera pour un temps le califat fatimide, autour des 10e-11e siècles. Hein. Donc c'est un courant qui est présent dans diverses régions de l'espace musulman. Il prendra l'importance que l'on sait en Iran à partir du 16e siècle, où là ça deviendra vraiment la religion officielle de l'État, mais il existait auparavant déjà en Iran. La fameuse secte des assassins se constitue d'abord autour de la région de l'Elbourz dans le nord de l'Iran, mais alors là elle est en situation d'opposition, elle ne contrôle pas bien entendu l'ensemble du pays. On trouvera aussi des chiites septimains, donc ismaéliens, dans les communautés musulmanes indiennes, et c'est à partir d'elles d'ailleurs qu'on redécouvrira pour une bonne part la tradition septimaine au 19e siècle. Donc c'est un courant qui s'est développé dans diverses régions de l'espace musulman et qui a pris des formes parfois un petit peu syncrétiques, qui a connu des évolutions particulières, par exemple avec les druzes, qui sont issus de la tradition chiite, ou avec les alaouites de Syrie ou avec les alévis, par exemple, de Turquie. Donc c'est un courant religieux qui a connu une évolution très diversifiée, à la différence de la tradition sunnite qui est fondée sur la révélation coranique et sur la sunna, sur la tradition, a été mise en forme en termes de droit musulman, en termes de fiqh, à partir des quatre grandes écoles juridiques hanéfites, malékites, chaféites et hanbalites autour des 9e, 10e siècles. Après, les choses là sont bouclées. Le chiisme a été une réalité religieuse dans la durée beaucoup plus évolutive.
Un peu comme comparaison n'est pas raison, oui. Ce qui s'est passé avec les protestants.
Un petit peu, oui, on pourrait dire
le
ça.
Le sunnisme serait le catholicisme. Oui, et le...
oui. Oui. Et on pourrait faire cette analogie sur le fond. Je crois que la tradition chiite est beaucoup plus riche que la tradition sunnite sur le plan religieux, philosophique. On a bien vu d'ailleurs avec de grands penseurs comme le spécialiste de l'islam iranien dont le nom m'échappe. Qu'il s'agit d'une tradition beaucoup plus riche que la tradition sunnite à beaucoup d'égards.
Alors Philippe Conrad, le calife Omeyyade a une brève existence.
Oui.
En 750,
les Omeyyades sont tous massacrés sauf un qui va être à l'origine de l'émirat de Cordoue, qui deviendra le califat de Cordoue ensuite.
Un jeune cousin
qui s'échappe. Abderrahman qui s'échappe. Et...
Alors à partir de ce moment-là, naît le califat abbasite de Bagdad, oui. Et Bagdad va être le cœur civilisationnel, politique, économique et militaire du monde musulman. Parlez-nous de cette histoire avec une fin tragique, une fin terrible, qui est encore dans toutes les mémoires du monde arabo-musulman.
Bagdad va devenir, à partir du 9e siècle, surtout notamment à l'époque des grands califes Harun al-Rachid et al-Mamoun, va devenir une magnifique capitale politique, culturelle et économique. Ça va devenir un petit peu l'une de ces villes-mondes dont parlera plus tard Fernand Braudel à propos de Venise, d'Amsterdam, etc., à cause de son importance économique. C'est un centre d'échange absolument extraordinaire, où arrivent les produits de Chine, d'Inde, où les Vikings venant par la Caspienne apportent également des produits du Nord. C'est une ville d'une richesse exceptionnelle. Il est très difficile de confirmer un tel chiffre, mais certains ont avancé le chiffre d'un million d'habitants à l'époque,
ce qui est
évidemment gigantesque. On peut penser qu'à cette époque-là, autour donc du 9e, 10e siècle, les trois capitales du monde, à l'ouest tout du moins de l'ancien monde, ce sont Bagdad, Byzance et Cordoue. Ce califat de Bagdad connaît effectivement, d'après les relations qu'on a des ambassadeurs byzantins, d'après les différents témoignages qui nous sont parvenus, à la fois une richesse, une prospérité extraordinaire, et puis un rayonnement culturel lui aussi tout à fait remarquable, avec une débauche de luxe et de richesse tout à fait étonnante.
Et alors en 1258...
Ce califat de Bagdad ensuite va entrer dans un relatif déclin parce qu'il va tomber sous le contrôle d'abord de grands vizirs bouyides qui sont des chiites, et puis ensuite va de plus en plus tomber sous le contrôle des mercenaires turcs.
Et les croisés
vont arriver un peu plus tard. Ils arrivent à la fin du XIe siècle. Et là, le califat de Bagdad n'est pas directement concerné par eux. Les croisés vont... leur zone d'action, c'est davantage la région où va s'étendre l'État ayoubide de Saladin, appuyé à la fois sur l'Égypte et la Syrie.
Parce que territorialement, ce califat de Bagdad
son autorité, a priori, s'étend à l'ensemble du monde musulman, mais il est clair aussi qu'un certain nombre de dynasties locales se sont développées, aussi bien vers l'Est, en Afghanistan, avec Mahmoud de Ghazni, par exemple, et les Ghaznévides. Vous avez vers l'Ouest, les puis le califat omeyyade de Cordoue. Vous connaissez bien tous les royaumes d'Afrique du Nord, le royaume idrisside du Maroc, aghlabide de Tunisie, etc. Pendant la majeure partie de cette période, l'autorité du calife abbasside de Bagdad va être reconnue quand même par tous les musulmans, sauf à l'époque où on va avoir trois califats concurrents, qui sont le califat abbasside de Bagdad, le califat fatimide chiite du Caire, et le califat omeyyade de Cordoue qui disparaît au début du XIe siècle.
Oui, alors, dans ces périodes vont se juxtaposer trois interventions extérieures.
Oui.
Il va y avoir la reconquête byzantine au nord, le développement du royaume arménien, les croisades et les Mongols.
Oui, ah bien sûr. Alors
à des époques différentes. Mais sur la géopolitique,
vous oubliez un élément qui sont les Turcs aussi. Les Byzance entreprend une reconquête qui concerne essentiellement la Syrie, la Syrie et Chypre,
jusqu'où à peu près.
Ils vont reprendre Alep, ils vont reprendre le nord de la Syrie, reprendre Chypre, pousser des raids jusqu'à Beyrouth et Jérusalem, même à l'époque de Jean Tzimisces, l'époque de la reconquête byzantine à la fin de à la fin du Xe siècle. Et puis, par ailleurs, cette reconquête byzantine va être en quelque sorte stoppée, gelée par l'irruption des Turcs seldjoukides qui vont infliger à Manzikert en 1071 la défaite la défaite que l'on sait à l'empereur byzantin Romain Diogène. Et alors ces Turcs ensuite vont créer en Asie Mineure le sultanat de Roum devenir un élément essentiel de la politique proche-orientale. Et dans ce contexte-là, le calife de Bagdad a perdu une bonne partie de ses anciens pouvoirs. Si vous voulez, à ce moment-là, il faut bien voir qu'au tournant de l'an 1000, les peuples qui avaient été les premiers porteurs de l'expansion musulmane, les Arabes, les Iraniens, dans une large mesure aussi, qui avaient digéré tout cet apport musulman et imposé à beaucoup d'égards le maintien de leur héritage et de leur tradition, ces peuples-là sont relayés maintenant par de nouveaux venus. Vers l'Est, ce sont les Turcs qui arrivent des steppes d'Asie centrale en vagues successives déjà depuis plusieurs siècles. Et puis alors vers l'Ouest, et vous les connaissez bien, ce sont les Maures, Almoravides, qui débarquent du sud du Maroc, ou plus tard les Masmouda de l'Atlas, qui seront porteurs de l'expansion almohade. Peuples qui viennent en quelque sorte renouveler, donner un sang nouveau à l'expansion musulmane. Et peuples, c'est important de le signaler, qui sont des peuples sunnites. Les chiites, dans cette affaire, perdent évidemment beaucoup de leur poids, de leur influence, et notamment le califat fatimide d'Égypte sera bientôt balayé quand Saladin fera à nouveau dire la prière en l'honneur du calife de Bagdad. Alors, ça, de la fin du XIIe siècle.
Alors, le califat de Bagdad va s'affaiblir.
Oui.
Il va s'affaiblir et il va connaître une fin tragique.
Oui, mais c'est-à-dire il va connaître une fin tragique parce que au XIIIe siècle, toute cette région de l'Orient, on a tendance à l'oublier nous, va être victime d'un déferlement absolument cataclysmique qui va être le déferlement mongol que nous avons connu nous en Europe, en Ukraine et jusqu'en Pologne, mais qui va prendre une ampleur dramatique en Orient puisque après avoir ravagé complètement des régions entières d'Iran, de Perse, après avoir ramené au désert des zones cultivées, notamment dans le nord de l'Iran, dans les régions même du Turkménistan actuel. Les Mongols vont s'en prendre à la Mésopotamie, à l'ancienne Mésopotamie, et en 1258, c'est un petit-fils de Gengis Khan, un fils d'Ogodei, qui était le fils du grand conquérant des steppes qu'a évoqué René Grousset. C'est un petit-fils donc de Gengis Khan, qui s'appelle Hulagu, qui va s'emparer de Bagdad et qui va détruire complètement la ville, faire un gigantesque massacre. Oui, tout à fait. Et là, il ne reste que quasiment rien des splendeurs de la Bagdad abbasside aujourd'hui à cause des destructions générales qui ont été opérées. Alors, on a parlé de plusieurs centaines de milliers de morts, les chiffres variant entre 200 000 et 800 000. Mais donc c'est évidemment impossible d'avoir un chiffre. Mais et il est intéressant, là, on parlait tout à l'heure de mémoire et de références historiques, de mythes fondateurs. Ça a échappé sans doute à beaucoup d'observateurs. Saddam Hussein, il y a quelques semaines, comparait les Américains aux Mongols, ce qui voulait dire quelque chose de très précis pour les gens de Bagdad et pour les Irakiens, parce que ça leur rappelle effectivement cette destruction de la ville, cette ruée barbare qui était bien plus destructrice que n'avait pu être, par exemple, la ruée des barbares germaniques sur l'Empire romain.
Dominique Venner.
Oui, peut-on mesurer l'ampleur de ce souvenir historique à mesurer ? A-t-on une idée de ce qu'est l'ampleur de ce souvenir historique ? Ou en avez-vous
Alors,
une idée ?
Alors, je crois qu'on peut... Il y a une chose, je crois, qui est importante dans les consciences arabes aujourd'hui, dans les mentalités arabes d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une profonde nostalgie d'un âge d'or du monde arabe qui est en grande partie une construction idéologique ou sentimentale, mais qui est quelque chose de très vivant. Les Arabes depuis des générations se vivent un petit peu comme des oubliés de l'histoire, comme des victimes de l'histoire, pour des tas de raisons d'ailleurs, dont certaines parfaitement compréhensibles et recevables, et ils entretiennent à contrario justement la nostalgie de cette époque des grands califats de Damas et surtout de Bagdad, parce que
que le califat de Bagdad, si vous voulez, correspond à une civilisation beaucoup plus évoluée. Les Omeyyades sont encore des descendants directs des pillards sortis du désert. Les hommes de Bagdad, en grande partie, ont récupéré tout l'héritage de la tradition iranienne et sassanide. Et pour cela, dans l'esprit des musulmans d'aujourd'hui, ou des arabes plus exactement, cette période qui va en gros du 7e siècle, le début de l'expansion arabe, jusqu'à Harun al-Rachid, ou disons en gros jusqu'à l'an 1000, c'est-à-dire l'irruption des Turcs d'un côté et des croisés de l'autre, cette période-là est perçue comme une période d'apogée, comme une période de grandeur, comme une période de splendeur. Et dans cette perspective-là, évidemment, la destruction par les Mongols de Bagdad, ça prend une valeur symbolique extrêmement forte.
Oui, c'est la chute de Constantinople.
Oui, c'est un peu l'équivalent de la chute de Constantinople pour la chrétienté grecque orthodoxe.
Une question d'auditeur, Victoria, d'auditrice.
À la place des musulmans, y avait-il beaucoup de chrétiens dans cette région ?
Là où les musulmans sont en Irak. Alors si vous voulez, quand les Arabes arrivent en Irak et envahissent l'Irak, il y a plusieurs religions qui existent dans l'Empire sassanide. Il y a d'une part le zoroastrisme qui restait la religion officielle depuis l'ancien Iran, et puis il y a d'autre part de très fortes communautés chrétiennes, notamment nestoriennes, qui ont été chassées de l'Empire byzantin. Quand les Arabes arrivent, on trouve ces deux religions en place dans ces régions d'Irak. Alors ensuite, les Arabes, appliquant là comme ailleurs le système de la dhimmitude, vont tolérer la persistance de ces communautés religieuses, sachant que à partir du moment où elles reconnaissent leur soumission par rapport aux conquérants, elles bénéficient certes d'un certain nombre de privilèges, la possibilité de continuer à exercer leur culte, par exemple, mais en même temps, elles doivent payer un impôt, deux impôts particuliers, la capitation et l'impôt foncier, dont sont exempts les musulmans, et bien entendu, elles se retrouvent, ces communautés, en situation tout à fait subordonnée, avec la précarité que cela implique. On est très loin de la prétendue tolérance, n'est-ce pas, dont on voudrait nous faire croire qu'elle était la règle dans les sociétés musulmanes. Cette tolérance, ce système de dhimmitude, c'est ce qu'on connu les Balkans, par exemple, à l'époque de l'Empire ottoman. C'est ce que connaissaient les Mozarabes dans l'Espagne d'Al-Andalus au Moyen-Âge. Et ça n'a rien à voir, évidemment, avec une coexistence intercommunautaire fondée sur la tolérance au sens où on l'entend aujourd'hui.
Les droits de l'homme et la fraternité. Dominique Vénère.
Oui, de façon très surprenante, il subsiste toujours des communautés qui se réclament du zoroastrisme en Iran aujourd'hui.
En Iran, oui, il y en a un petit peu, pas beaucoup. Les principales communautés, à ma connaissance, ce sont les Parsis qui sont installés en Inde, près de Bombay.
Oui, heureusement
qu'il y a... Le zoroastrisme a très vite, en grande partie quand même, disparu après la conquête musulmane et n'a pas bénéficié. Les zoroastriens ne bénéficiaient pas. Ils étaient considérés comme religion du livre à cause de l'Avesta, qui est un livre également, mais ils n'ont pas bénéficié des mêmes privilèges, entre guillemets, dont bénéficiaient les juifs et les chrétiens, qui étaient considérés comme religion du livre, plus proche de la religion musulmane.
Qui n'était pas fils d'Abraham.
Voilà.
Philippe Conrad, donc 1258, le sac de Bagdad. Bagdad est totalement ruiné. Que se passe-t-il ensuite ?
Alors ensuite, cette région de Mésopotamie va se retrouver intégrée dans une espèce d'empire, dans une espèce d'état de royaume et héritier de la conquête mongole qu'on appelle le royaume Ilkhanide, qui s'étendait également sur la Perse, sur l'Iran. Bon, ensuite en Iran, en Perse, à la charnière du XVIe siècle, il y aura la prise de pouvoir par ceux qu'on appelle les Séfévides, qui vont bâtir un empire remarquable, brillant, dont la capitale sera Ispahan et qui pendant deux siècles va être un foyer de culture remarquable. Mais ces Séfévides persans vont se heurter très vite aux Ottomans, qui sont donc des Turcs qui ont entamé la longue histoire que l'on sait dès le XIVe siècle. Et ces Ottomans, après s'être intéressés surtout à l'Asie mineure et aux Balkans, après avoir pris Constantinople, vont se tourner vers l'Orient. Et il y aura un
moment très important là pour cette région de Mésopotamie. En 1514, c'est la bataille de Chaldiran, au cours de laquelle l'armée ottomane, avec ses janissaires, avec sa puissance de feu bien supérieure, va battre complètement l'armée persane, ce qui fait que la Mésopotamie va passer sous le contrôle des Turcs. Les Ottomans vont s'emparer complètement de Bagdad en 1534, mais déjà la région est donc sous leur contrôle. Les Ottomans vont pousser ensuite davantage vers le sud, on le sait, puisqu'ils vont aller détruire l'Égypte mamelouque, soumettre l'Égypte mamelouque, se faire reconnaître le contrôle des lieux saints, ce qui permettra à Soliman de se proclamer calife. Et puis, à l'époque de Tchahabas, un des grands souverains persans séfévides, pendant quelques dizaines d'années, les Perses vont réussir à reconquérir Bagdad, mais ils en seront finalement chassés, et toutes ces régions de Mésopotamie resteront sous le contrôle ottoman jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Jusqu'avant les partages et jusqu'avant la grande division de la guerre mondiale.
Tout à fait.
Alors, quelle est la situation de cette zone à la veille de la Première Guerre mondiale?
La Première Guerre mondiale, alors... Les choses se présentent.
L'Irak, à ce moment-là, est un pachalique.
Non, il n'y a pas d'Irak. L'Irak n'existe pas.
Hein. Non, ce qu'on appelle l'Irak.
Alors, ce qu'on appelle l'Irak, ça correspond aux trois vilayettes de Mossoul, Bagdad et Bassora, qui sont des circonscriptions administratives dans l'Empire ottoman. Hein. Vilayette de Bassora, dont fait partie, je précise, au départ aussi le Koweït actuel. Hein. Bon, et cette partie de l'Empire ottoman est peuplée d'Arabes. Bon, alors ce qu'il faut savoir, ce qu'on oublie très souvent chez nous, c'est que de même qu'il y a eu des mouvements nationalistes ou nationalitaires dans les Balkans contre la domination ottomane, qui était le fait des Serbes, des Grecs, des Bulgares, etc., dans la partie asiatique de l'Empire ottoman, eh bien, le sultan avait à compter aussi avec des mouvements analogues, qui pouvaient être le fait, par exemple, des Arméniens, hein, chrétiens, qui étaient adossés au Caucase, installés en Anatolie orientale, qui pouvaient être le fait des Kurdes, déjà, hein, population spécialement rétive et peu disposée à supporter l'administration ottomane, et qui était surtout, au XIXe siècle, le fait des Arabes. Les Arabes de l'Empire ottoman, qui ne représentent qu'un tiers de la population de l'Empire ottoman, mais qui représentent la majeure partie de son territoire, avec toute la péninsule arabique, avec le croissant fertile de la péninsule arabique. Ces Arabes ont plein de choses à reprocher aux Turcs. Ils considèrent que pour eux, depuis la conquête turque, eh bien, la période a été la période de la nuit ottomane, pour reprendre une expression utilisée à l'époque. Ces Arabes, à la suite de ce qui s'est passé en Égypte avec Mehmet Ali, que vous connaissez bien, eh bien, ils ont connu tout ce réveil culturel de la Nadda au XIXe siècle, hein, qui a été une espèce de période de prise de conscience identitaire, comme phénomène de nationalitaire, comme ceux que nous avons connus en Europe. Ils reprochent de plus aux Turcs d'être incapables de défendre leur territoire arabe contre les ambitions des Européens. Hein, deux exemples. Le Koweït, en 1899, les Anglais imposent leur protectorat au cheikh Moubarak al-Sabah au Koweït et font reconnaître ce protectorat par l'Empire ottoman en 1913, à la grande fureur des Arabes. De la même manière, en 1911-1912, l'Empire ottoman est incapable de défendre la Libye contre la conquête italienne. Il n'a pu défendre l'Égypte contre la mainmise britannique à partir de 1881. Donc les Arabes sont mécontents des Turcs et il y a tout un mouvement nationaliste qui se développe dès avant la guerre de 14 avec des sociétés secrètes militaires comme Al-Hadda en Irak et avec des revendications qui sont suivies de près et même encouragées par les puissances occidentales qui préparent le démembrement de l'Empire ottoman. Hein, c'est pas un hasard si un congrès national arabe se réunit à Paris en 1913 pour réclamer l'usage de la langue arabe dans l'administration, une très large décentralisation administrative et derrière, évidemment, avec des revendications indépendantistes. Les Français et les Anglais commencent à se placer, d'ailleurs, à l'époque. Les Français s'intéressent à la Syrie, où ils ont des intérêts, notamment ferroviaires. Les Anglais s'intéressent, évidemment, à ce qui va devenir l'Irak, parce qu'on est sur la route des Indes. Parce que les Allemands ont obtenu le contrat du Bagdad-Ban, du chemin de fer de Bagdad, en 1898, et que ce chemin de fer de Bagdad, qui doit arriver notamment jusqu'à Bassora, normalement jusqu'à Bassora, c'est une espèce de route continentale vers l'Inde qui vient en quelque sorte doubler la route maritime qui est sous le contrôle de l'Angleterre via Gibraltar, Malte, Suez, Aden, etc. Et qu'il faut absolument empêcher cela. Alors les Anglais sont présents déjà dans le Golfe déjà depuis un moment, notamment avec les Émirats de la côte des pirates où ils ont instauré déjà un quasi protectorat. Ils ont des agents dans la péninsule arabique, ils ont des agents en Mésopotamie. Hein, il y a un consul anglais à Bassora dès le 18e
XVIIIe siècle et même dès la fin du XVIIIe à Bagdad, ça montre bien que, même que à la même époque, les Anglais prennent le relais des Français à Constantinople aussi. Donc ça montre bien qu'ils ont bien vu qu'il y avait là une région absolument essentielle, même si on ne connaît pas encore l'existence du pétrole et l'importance du pétrole. Donc il y a des convoitises évidemment des grandes puissances sur ces régions, essentiellement donc l'Allemagne à travers sa politique ottomane d'avant 14, hein, appuyée par la révolution jeune turque de 1908, et puis les Français, je l'ai dit, donc en Syrie, en Asie mineure, et puis les Anglais qui suivent de très près, qui sont en Égypte, on le sait, et qui suivent de très près, évidemment, tout ce qui se passe dans la future, dans le futur Irak. Hein, alors on a quelques exemples, évidemment, bien connus, là, que l'on peut citer, de personnages qui sont liés à toutes ces intrigues, à tous ces préparatifs. Hein, c'est Lawrence, par exemple, le futur colonel Lawrence, qui fait des fouilles archéologiques à Carchemish, à quelques kilomètres du chantier du Bagdad Ban. Ou comme par hasard, il y a des grèves chez les ouvriers employés par la firme allemande qui construit le chemin de fer, où c'est la fameuse Gertrude Bell aussi, qui est un agent anglais déguisé en archéologue et qui, suit de très près, fournit du renseignement sur ce qui se passe en Irak, alors que le capitaine Shakespeare, lui, suit de près les mésaventures d'un certain Ibn Saoud au cœur des déserts d'Arabie, n'est-ce pas ?
L'archéologie fut une belle couverture.
Exactement.
Alors, la Première Guerre mondiale éclate et l'on va se battre sévèrement dans ce qui va devenir l'Irak.
Oui.
Alors, les Anglais vont subir une sérieuse défaite.
Oui. Alors, l'Empire ottoman, comme on le sait, s'était rapproché beaucoup des centraux. Il avait signé un traité secret avec les Allemands dès le début de la guerre. Et puis, à l'automne de 1914...
Vous voulez parler des centraux pour nos auditeurs, rappelez-vous.
Alors, les centraux, c'est l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et puis, à l'automne de 1914, le fameux épisode des deux croiseurs allemands réfugiés à Constantinople, rebaptisés, rachetés par le gouvernement, qui vont bombarder les ports russes d'Odessa et de Sébastopol, c'est le casus belli, on entre en guerre. Donc. Et dans cette perspective, les territoires arabes de l'Empire ottoman deviennent un enjeu important. Il s'agit de couvrir la route des Indes, il s'agit de couvrir Suez également. Hein, on verra l'armée de Jemal Pacha s'avancer vers Suez au début de 1915, puis cette offensive brisée par les Anglais. Mais pour ce qui concerne l'Irak, dès l'automne 14, eh bien les Anglais, en fait des troupes fournies par l'armée des Indes, vont débarquer à Fao, à Bassora, on retrouve des noms là qui sont
les lieux
redevenus familiers.
L'on se bat toujours.
Redevenus familiers ces jours derniers. Ils vont débarquer à Fao, s'emparer de Bassora, et ces forces anglaises vont s'avancer, vont remonter tout simplement la vallée du Tigre pour s'avancer en direction de Bagdad.
Comme les Américains ces derniers jours.
Et ils vont pousser. Alors ils vont pas prendre exactement le même chemin. Les Américains vont entrer par le désert et rattraper l'Euphrate à hauteur de Nasiriyah. Tandis que les forces anglaises, là, en 1914 et 15, surtout à partir du printemps 15, vont monter par la vallée du Tigre, essentiellement. Hein. Alors, ils vont monter comme ça jusqu'à Ctésiphon, l'ancienne capitale sassanide, au sud de Bagdad. Là, ils vont affronter... les troupes turques et arabes, puisque les troupes arabes de l'armée ottomane font partie de l'armée ottomane, hein, bien sûr, et ils vont subir un coup d'arrêt, en quelque sorte. Et le général Townshend, qui commande cette armée anglaise, va replier ses troupes pour l'installer sur une base qu'il croit tout à fait solide, dans une boucle du fleuve, à Kut El Amara. Et là, il pense être parfaitement en sûreté, en situation d'attendre des renforts, d'attendre notamment que la saison, on va être pendant l'hiver 1915-1916, la saison se terminant, les crues des fleuves se calment, pour pouvoir récupérer donc les renforts suffisants et reprendre sa marche en avant. Mais il se trouve finalement isolé dans cette position, et on a pu parler à propos de Kut El Amara, d'un Dien Bien Phu britannique, puisque au printemps 1916, après plusieurs mois de siège, eh bien, les Anglais vont devoir capituler. Et cette capitulation de Kut El Amara, c'est évidemment un revers très sérieux, à un moment où ils sont également, les Anglais, sur la défensive du côté de l'Égypte et de la Palestine. Les seuls succès qu'ils vont commencer à remporter, ils vont les devoir à la révolte arabe conduite par Lawrence quelques mois plus tard.
A-t-on eu des pertes britanniques?
Oh, écoutez, je n'ai pas les chiffres en tête. Je pense qu'ils avaient quelque chose comme une vingtaine de milliers d'hommes engagés dans l'affaire. Alors, beaucoup ont été faits prisonniers, mais beaucoup n'ont pas survécu à la,
détention.
À la détention. En revanche, le général Tanchen, lui, a été emmené avec tous les égards à Constantinople. Et ensuite, c'est intéressant, ça, pour l'anecdote, c'est lui qui jouera le rôle d'intermédiaire en 1918 au moment de la négociation de l'armistice de Mudros entre les Anglais et les Turcs.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Victoria, nous avons de nombreuses questions d'auditeurs.
Vous avez au départ un auditeur, puisque nos auditeurs savent tout, qui vous rappelle que Henri Corbin est le nom que vous cherchiez, professeur au Collège de France et spécialiste de l'islam iranien.
Voilà, merci beaucoup à cet auditeur.
Merci, cher auditeur.
Et un autre auditeur vous demande, il ne se rappelle plus la différence entre les Perses et les Assyriens. Savez-vous si les Irakiens descendent des Assyriens ?
Alors, dire que les Irakiens descendent des Assyriens, c'est évidemment très très aventuré, étant donné les immenses brassages de population qui ont eu lieu dans cette région. Cela dit, en ce qui concerne les Assyriens et les Perses, il s'agit bien évidemment de populations différentes. Les Assyriens sont des populations d'origine sémite, pour l'essentiel, qui ont bâti un empire militaire tout à fait redoutable dans cette région de Mésopotamie en deux temps, à l'extrême fin du deuxième millénaire, puis surtout autour des 8e, 7e siècles, un empire dont on connaît bien les capitales de Nimroud, Ninive, Khorsabad, etc. Les Perses, en revanche, eux, sont des Indo-Européens qui sont des gens qui viennent du plateau iranien, qui viennent d'Iran, et c'est là que sera le point de départ de leur expansion à l'époque de l'empire achéménide, notamment, qui est le premier grand empire perse universel de l'Antiquité.
Alors revenons-en, Philippe Conrad, à la Première Guerre mondiale. Cette Première Guerre mondiale n'est pas terminée. Oh. En 1916, rien n'est joué. Rien n'est joué, mais déjà les puissances qui s'intéressent à la région, les Français et les Britanniques, se partagent un petit peu la zone. Ce sont les fameux accords Sykes-Picot de 1916. Alors, parlez-nous un petit peu de ces accords et de leurs conséquences.
Ils vont avoir des conséquences extraordinaires sur l'histoire ultérieure du Proche-Orient. Nous avons évoqué tout à l'heure le personnage de Laurence d'Arabie, la révolte arabe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès 1916, le résident britannique en Égypte, Henri MacMahon, avait pris des engagements avec le
shérif Hussein de la Mecque, le shérif Hachémite, pour lui promettre, s'il se joignait aux Anglais dans la lutte contre les Turcs, la création d'un grand royaume arabe à l'issue de la guerre. Grand royaume arabe qui, dans l'esprit des Hachémites, comprendra bien sûr l'Arabie, mais aussi la Syrie, la Mésopotamie, également Damas, Bagdad, etc. Et en même temps que l'on faisait ces promesses aux Arabes, eh bien, Français et Anglais négociaient secrètement à travers donc deux personnages, Marc Sykes et Georges Picot, et au printemps 1916, ils se prévoyaient le partage des parties arabes, des régions arabes de l'Empire ottoman entre la France et l'Angleterre. En gros, le Liban, la Syrie et le vilayet de Mossoul pour la France, c'était prévu comme ça à l'époque, la Palestine et la Mésopotamie pour l'Angleterre. On pouvait envisager de laisser l'Arabie où on ne pensait qu'il n'y avait que du sable et des cailloux aux Hachémites de la Mecque, mais c'est ainsi que se construisaient les lendemains du Proche-Orient. Quand on sait qu'en plus, en 1917, avec la fameuse déclaration Balfour, les Anglais vont promettre au Congrès juif la création d'un foyer national juif en Palestine, on voit là que la diplomatie anglaise a créé les conditions, dans une très large mesure, des difficultés ultérieures, puisque on ne pouvait faire les mêmes promesses ou promettre les mêmes territoires à plusieurs personnes à la fois.
Des conférences internationales se tiennent ensuite pour redéfinir.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'entre-temps, l'action militaire va repartir, et en 1917, les Anglais vont réussir à s'emparer de Bagdad. Le général Maud sera plus heureux que le général Townshend, et il prendra Bagdad au printemps de 1917, et progressivement, les Anglais vont prendre le contrôle de la Mésopotamie, ils vont même pousser jusqu'à Bakou, à la faveur des troubles liés à la révolution russe, ils vont même pousser jusqu'en Azerbaïdjan pendant quelques temps. Et ils s'installent donc, ils prennent date, n'est-ce pas, ils s'installent solidement au Proche-Orient durant cette époque. Il faut dire que, à ce propos, les Anglais ont fait un effort militaire, y compris à partir de l'Égypte, avec l'armée Allenby, considérable, parce que pour eux, c'était là un enjeu essentiel. Ils ont engagé des forces à peu près 10 fois supérieures à ce qu'ont engagé les Français quand ceux-ci sont venus débarquer à Beyrouth en 1918 et se sont engagés ensuite en Cilicie, en Turquie. Donc là, il y avait un rapport de force qui fait que les Anglais ont été, à l'issue, les maîtres du jeu. C'est ainsi, dans ces conditions-là, que Clémenceau, en 1918, par exemple, va renégocier avec Lloyd George les accords Sykes-Picot, et on va abandonner aux Anglais le vilayet de Mossoul, dont on sait l'importance sur le plan pétrolier.
Oui, les Français, avec la DFL, la division française du Levant, n'ont que 3 ou 4 régiments. Régiment de tirailleurs, un régiment de Spahi, et
tout à fait inférieures à ce qu'engagent à cette époque les Anglais, qui sont en position de force au Proche-Orient, dans une région où nous étions alliés, évidemment, sur le front de la Somme ou en Artois, mais là les coups bas n'ont cessé de pleuvoir au Proche-Orient pendant toute la guerre, et ce qui explique par exemple les difficultés faites à Lawrence, par exemple, quand il veut venir en France à l'issue de celle-ci.
Alors les conférences internationales vont se tenir et vont entériner dans une certaine mesure.
Alors oui, il y en a 3 qu'il faut évoquer. Il y a d'abord la conférence de la paix qui s'ouvre en janvier 19 à Paris, qui va aboutir au traité de Versailles et aux autres traités que l'on connaît. Conférence au cours de laquelle l'émir Faisal, donc le fils du shérif Hussein de la Mecque, celui qui avait combattu avec Lawrence, celui qui aurait dû être l'un des souverains possibles de ce grand royaume arabe,
le nouveau califat.
Eh bien, nous ne l'écoutons pas, et ses revendications ne sont pas entendues, pas plus que celles des nationalistes égyptiens d'ailleurs, ne sont entendues lors de cette conférence de la paix en 1919. Des gens qui avaient cru aux promesses des 14 points du président Wilson relatives à l'autodétermination, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, apparemment ce n'était pas quelque chose qui valait pour les populations arabes du Proche-Orient. Ensuite, en 1920, il y a la conférence de San Remo, au cours de laquelle Français et Anglais se partagent de manière définitive, cette fois, le Proche-Orient arabe ex-ottoman. Donc, alors, on confirme que la France voit reconnaître le Liban et la Syrie, et l'Angleterre, la Palestine et l'Irak. Bon. Et puis, troisième conférence importante, 1921 au Caire, c'est la conférence coloniale anglaise réunie par Churchill, qui était à l'époque ministre des colonies, et où il s'agissait justement d'organiser tout ça. Conférence surnommée Conférence des 40 voleurs, d'ailleurs par Churchill, qui avait le sens de l'humour. Ils étaient une quarantaine participants, alors donc, pensez à Alibaba. Et on a décidé là, alors là, c'est beaucoup plus important, on a décidé là que la Palestine serait sous administration directe des Anglais, que l'on crée entre la Palestine et l'Irak un émirat de Transjordanie, un royaume, un émirat de Transjordanie, qui serait donné à Abdallah, l'un des fils du shérif Hussein de la Mecque, et que l'Irak, la Mésopotamie, reviendrait à un autre fils, Faisal, que j'évoquais tout à l'heure, qui avait combattu avec Laurence, qui était aussi un hachémite, un fils du shérif Hussein de la Mecque. Et ce pauvre Faisal, qui avait tenté à Damas de proclamer un royaume arabe en 1920, avait été chassé de Damas par les Français, qui étaient venus installer leur autorité comme prévu par les accords franco-anglais. Alors ce pauvre Faisal, on va lui donner un lot de consolation, en quelque sorte, il va se retrouver à la tête de l'Irak. Alors ce qui est une construction un petit peu bizarre, parce que il est sunnite. L'Irak est à majorité chiite. C'est un prince donc qui vient de la Mecque, du Hedjaz, d'Arabie. Oui. Seulement les pauvres hachémites de la Mecque, c'est le moment où ils vont être balayés bientôt par Ibn Saoud et ses wahhabites surgis du désert du Nejd. Donc ils leur font un lot de consolation, n'est-ce pas? C'est protéger les Anglais, et les Anglais vont donc construire, établir de manière complètement artificielle des monarchies de type totalement monégasque. Tout à fait à leur botte, n'est-ce pas? Ils ont pensé que c'était mieux de faire ainsi. Au départ, ils auraient bien pris le contrôle complet de l'Irak, mais dès 1920, ils se sont heurtés à une révolte chiite particulièrement violente. Ils ont mis 8 mois à la réprimer. Ils y sont parvenus en utilisant d'ailleurs des gaz de combat à grande échelle, parce que ils avaient relativement peu de troupes sur place, mais ils avaient une supériorité aérienne totale avec la Royal Air Force qui était déjà constituée.
C'est ce qu'on appelle les armes de destruction massive.
Voilà. Les Anglais ont utilisé les gaz. Ils ont recommencé d'ailleurs ensuite contre les Kurdes en 1922, en 1924, et puis à plusieurs reprises.
Le général anglais, on ne sait pas.
Ah ben ça veut dire.
Parce qu'on voit son nom, le chimiste.
On voit le surnommé le chimiste. Je ne sais plus qui est. Je ne sais plus qui. Je ne sais pas si je l'ai su. Qui commandait en Irak à l'époque les forces anglaises. Alors les Anglais donc ont préféré mettre un prince à leur botte sur le trône. Le pauvre Faisal n'était pas dupe, mais il n'avait guère de moyens de faire autrement. Il est très dépendant des Anglais pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il
est totalement dépendant.
Oui, mais d'abord parce que la question de l'indépendance est posée. L'Irak est territoire sous mandat A, c'est-à-dire un pays devant obtenir une indépendance relativement rapide. Bon, donc il y a la question de l'indépendance. Plus vite elle arrivera, mieux ça vaudra, mais c'est Londres qui commandera le calendrier. Donc le pauvre Faisal, il dépend des Anglais pour ça. Il dépend des Anglais également parce que reste ouverte la question du vilayet de Mossoul. Les Turcs le revendiquent, les Turcs de la nouvelle Turquie kémaliste revendiquent Mossoul et les pétroles de Mossoul. Et seule l'Angleterre est évidemment en mesure d'empêcher que la Turquie ne se réapproprie cette région. Donc Faisal a besoin des Anglais, il est coincé. Et c'est dans ces conditions que l'Irak va obtenir une indépendance largement formelle en 1930 et entrer à la SDN en 1932, où elle sera l'un des pays clients des Anglais parmi un certain nombre d'autres, comme l'Afghanistan, par exemple, à l'époque.
Quel est le jeu des Turcs et des Français dans ce contexte?
Par rapport à l'Irak, le jeu des Turcs, c'est d'espérer, évidemment, récupérer Mossoul, mais bon, c'est inenvisageable pour les Turcs à l'époque, et ils sont obligés, en 1925, de reconnaître à l'Irak le vilayet de Mossoul. Quant aux Français, eh bien, eux, ils ont suffisamment à faire avec le Grand Liban qu'ils ont constitué, et la Syrie, avec leur territoire constituant le Levant français, dans lesquels ils doivent affronter notamment la révolte druze, et ils n'ont pas d'ambition particulière du côté de l'Irak. Une différence, si vous voulez, quand on va commencer à exploiter le pétrole de Mossoul, qui commence à jaillir en 1927, il y a la question du pipeline, de l'oléoduc. Les Français veulent qu'il arrive à Tripoli de Syrie, les Anglais veulent qu'il arrive à Haïfa en Palestine. Alors on mettra tout le monde d'accord en faisant deux branches dans la deuxième partie du parcours. Sur la question de l'Irak, comme on dit, les Français ne sont plus partie prenante, disons.
Philippe Morin, l'horloge est en train dégrainer les minutes. Donc, je voudrais que nous avancions vers la Seconde Guerre mondiale.
Oui, alors que quelques mots simplement pour préparer cette Seconde Guerre mondiale. 1933, le roi Faisal va mourir. Son successeur, le roi Razi, est un adversaire des Anglais. et il réclame notamment la restitution du Koweït. Faisal l'avait réclamé aussi, n'est-ce pas, le Koweït qui est toujours un protectorat anglais à l'époque, ce que les Anglais évidemment refusent, d'autant qu'on a trouvé, on commence à savoir qu'il y a du pétrole au Koweït. Et puis en 1939, le roi Razi va avoir un accident de voiture des plus suspects que certains ont attribué à l'intelligence service, et c'est son fils qui a là 2 ans, je crois, à l'époque, Faisal II, qui doit lui succéder. Mais on a sous la main un oncle, le régent Abdoulilah, qui va faire l'affaire parce que lui est très anglophile. Et puis il y a surtout un homme qui est l'âme damnée des Anglais en Irak pendant plusieurs dizaines d'années, c'est Nouri Saïd, qui est l'exécuteur des basses œuvres de Londres dans le pays, et qui va maintenir l'Irak sous contrôle britannique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et nous le retrouverons d'ailleurs ensuite jusqu'à la révolution de 1958.
Passons rapidement sur la Seconde Guerre mondiale.
Alors, la Seconde Guerre mondiale en Irak, les choses sont simples. Les Irakiens, donc, a priori, évidemment, de fait de leur situation, sont obligés d'être au départ dans le camp anglais, mais en même temps, ils sont tout à fait hostiles aux Anglais, notamment à cause aussi de la question de Palestine. Car l'insurrection musulmane, l'insurrection arabe s'est déclenchée en Palestine à partir de 1935. Les Anglais répriment cette insurrection, comme l'on sait, et les Irakiens sont tout à fait solidaires des Palestiniens. Et notamment le grand moufti de Jérusalem se réfugie même en Irak à ce moment-là. Et c'est dans ces conditions qu'en Irak éclate en avril 41 le fameux coup d'État du Carré d'Or, du Golden Square, dirigé les 4 colonels qui étaient regroupés autour de Rachid Ali al-Gayani, qui était un militaire nationaliste et qui avait été nommé au ministère de la Guerre et qui, comme il n'était pas suffisamment anglophile, avait été écarté sous pression des Anglais. Alors il fait un coup d'État en avril 41, mais ce coup d'État n'aura pas de suite. Il aura indirectement des suites, puisque c'est là que se pose la fameuse question des aérodromes de Syrie, du voyage de Darlan à Berchtesgaden, etc. Mais ce coup d'État n'aura pas suite parce qu'au bout d'un mois, les Anglais vont réussir à reprendre la situation en main. Ils disposent de la maîtrise du ciel. Ils vont à partir de leur base de Bassora et d'Abaniya, et ils vont engager également la Légion arabe du fameux Club Pacha, qui va venir depuis l'Émirat de Transjordanie s'engager également contre les rebelles qui seront finalement vaincus. Les Anglais normalisent à ce moment-là l'Irak, comme ils normaliseront peu de temps après l'Iran, où ils imposeront à Reza Shah de s'expatrier pour pouvoir s'entendre avec les Russes et pouvoir contrôler le territoire iranien. Alors que dans ces pays, il y avait certaines sympathies pour l'Axe, évidemment, parce que naturellement, c'était l'Angleterre qui était perçue comme la puissance coloniale, comme la puissance étrangère hostile. Alors c'est ainsi que ce coup d'État nationaliste de 41 va échouer en Irak.
Et les comptes vont se solder en 1958.
Voilà, c'est-à-dire qu'après après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement national ou nationaliste en Irak va se développer, comme en Iran à l'époque de Mossadegh à la même époque, autour d'un certain nombre de thèmes, en particulier sur la question pétrolière, parce que il faut rappeler qu'en Irak, c'est l'Iraq Petroleum Company, ancienne Turkish Petroleum Company, qui exploite les ressources du pays dans des conditions évidemment favorables aux compagnies. Donc il y a un fort mouvement contre cette situation, fort mouvement en faveur de l'indépendance, d'une indépendance réelle, car l'indépendance formelle existe. Mais il n'y a pas d'indépendance réelle de ce pays. C'est le gouvernement de Nouri Saïd et Faisal II sont des exécutants dociles des volontés britanniques. Et puis un deuxième moment important aussi, c'est la création en 55 du pacte de Bagdad, qui intègre Turquie, Irak, Iran, Pakistan. Dans le contexte de la guerre froide, il s'agit de constituer une barrière face à la poussée soviétique. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, c'est le moment où se développe le discours nassérien. C'est le moment où, dans tout le monde arabe, il y a un immense espoir du fait de la prise de pouvoir de Nasser en Égypte. C'est le moment où le panarabisme connaît une extension extraordinaire dans les opinions publiques. Donc, s'accrocher au camp occidental comme cela, c'est évidemment évidemment très mal perçu, c'est rejeté par la population. Et tout ça va nous mener effectivement, comme vous le dites, en 1958. Alors en 58, il faut bien voir quel est le contexte. C'est l'époque, par exemple, où les Américains, les Marines américains débarquent à Beyrouth pour s'opposer à une tentative de coup de force nasserien au Liban. C'est l'époque où les militaires anglais l'armée anglaise envoie des contingents à Amman parce qu'on craint beaucoup pour le petit roi Hussein qui est au pouvoir depuis la mort de son grand-père Abdallah. Et donc il y a une intervention directe dans les pays arabes des puissances anglo-saxonnes. Et Nouri Saïd, à cette époque-là, pour contrer les volontés nasseriennes d'unité arabe qui s'étaient exprimées avec la création de la République arabe unie au début de 58 avec l'Égypte et la Syrie, Nouri Saïd avait mis au point un plan d'alliance entre Jordanie et Irak, les deux royaumes, donc hachémites, et pour faire une autre unité arabe du croissant fertile, etc., pour contrer les entreprises nasseriennes. Et dans le cadre de cet accord, les forces irakiennes devaient éventuellement intervenir au profit de la Jordanie si le cas se présentait. Et c'est au moment où Nouri Saïd veut envoyer des forces irakiennes justement en Jordanie, pendant cet été 58, que se déclenche le coup d'État qui va l'emporter le 14 juillet 58, qui voit la mort de Faisal II qui est assassiné, de Nouri Saïd, d'Abdoulilah.
Et lynché.
Voilà. Cette révolution de 58, évidemment, c'est une date essentielle dans l'histoire de l'Irak contemporain, puisque là, on va se constituer une république irakienne qui succède à la monarchie mise en place par les Anglais en 1921. Alors, c'est un général qui s'appelle Qassem, qui va prendre le pouvoir en 1958. C'est un général nationaliste, bien sûr, mais qui s'appuie sur les communistes, qui s'appuie sur les chiites également, qui va rester au pouvoir 5 ans jusqu'en 63, nouveau coup d'état du parti Baas cette fois, qui va renverser Qassem sera tué. Au bout de quelques mois, nouveau coup d'état d'un certain général Aref, qui lui est de tendance nasserienne et qui va chasser le Baas du pouvoir au bout de quelques mois. Et ce général Aref disparaîtra accidentellement, son frère lui succédera, et finalement, en 1968, c'est le Baas qui prendra de nouveau le pouvoir avec le général Al-Bakr.
La radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Je pense que Dominique Vénère voulait poser une question à Philippe Conrad.
Oui, je voudrais savoir quelles sont les origines du parti Baas et quelles sont les différences entre ce parti en Irak et en Syrie.
Oui. Alors, le parti Baas, ce qui signifie le parti de la résurrection arabe, le parti Baas, c'est un parti qui s'est constitué en 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a pris le nom d'une revue qui préexistait de quelques mois. Et c'est un parti qui est fondé par des nationalistes arabes, deux principalement, Michel Aflaq et Salah Al-Bitar, qui ont fait des études à Paris, qui ont donc été pénétrés de toute la culture politique européenne, française, mais aussi allemande. Et ces gens-là, qui évidemment sont partisans de l'indépendance du monde arabe par rapport à la situation coloniale qu'ils connaissent alors, sont les champions d'un nationalisme arabe inspiré dans une large mesure du kémalisme en Turquie et inspiré dans une large mesure de l'expérience de Reza Shah en Iran. Hein. Les tentatives nationalistes laïques dans le monde musulman ont d'abord été le fait des Turcs, des Iraniens, des Afghans aussi, il ne faut pas l'oublier, pendant très peu de temps, le roi Zahir au début des années 30, et c'est dans un deuxième temps seulement que ce nationalisme va gagner le monde arabe. Alors, ce nationalisme laïque, j'entends, va gagner le monde arabe. Un nationalisme laïque, d'ailleurs, plus modéré que celui de Mustafa Kemal, puisque Michel Aflaq, l'un des fondateurs, qui est chrétien, alors que Salah Al-Bitar est musulman, mais ils sont arabes tous les deux, Michel Aflaq précise bien quelle est la part de l'islam dans l'identité arabe. Il n'y a pas une opposition aussi vive que dans le cas du kémalisme en Turquie. Et alors, ces nationalistes, ils vont donc créer ce parti en 1947, en Syrie, à Damas. C'est un phénomène d'abord syrien, et puis le Baas va gagner des partisans aussi au Liban, en Jordanie, en Irak également, et c'est la construction idéologique, doctrinale, la plus cohérente dans tout ce courant du nationalisme arabe. Seulement, c'est un courant qui va être quelque peu occulté dans les années 50, forcément, par le prestige de Nasser. Nasser a un charisme personnel considérable, l'Égypte est évidemment un état central dans le monde arabe à l'époque, le succès de la nationalisation de Suez, parce que malgré la déroute militaire de 1956, finalement Nasser sort vainqueur politiquement de la crise de Suez, tout cela fait que le Baas va voir un petit peu ses capacités d'extension à l'ensemble du monde arabe et notamment à l'Égypte, par définition limitée du fait de la concurrence du nasserisme. Alors ensuite, ce parti Baas, il va prendre le pouvoir à la fois en Syrie et en Égypte. Et en Irak. Il va prendre le pouvoir à la fois en Syrie et en Irak, au même moment d'ailleurs, mais en Syrie, les choses vont évoluer d'une manière un petit peu inattendue. En Syrie, les gens qui vont prendre le pouvoir, les militaires qui vont prendre le pouvoir, et notamment celui qui va en être l'héritier, Hafez el-Assad, à partir de 1970, vont en fait mener une politique de fait à l'intérieur du pays qui va être une politique jouant sur les diverses communautés. Les Alaouites sont à la tête du pays en Syrie et c'est avec un savant équilibre avec les sunnites, les chrétiens, etc. qu'ils arrivent à diriger le pays. Ils sont tout à fait aux antipodes d'un véritable nationalisme arabe transcendant justement les communautarismes, ce qui est l'un des articles de foi du Baas. Et d'ailleurs, Michel Aflaq, le fondateur, quittera la Syrie pour rejoindre l'Irak. Ce qui fait qu'à partir d'un moment, c'est l'Irak qui apparaît comme le dépositaire de l'authentique, de la véritable tradition baasiste.
D'où l'opposition.
L'idéologie baasiste n'étant plus en Syrie que le prétexte idéologique pour légitimer le pouvoir d'une communauté donnée, en fait les Alaouites, puis d'un certain nombre de clans donnés autour de Assad pour diriger le pays.
D'où l'opposition Syrie-Irak à cette époque.
Voilà, d'où l'opposition entre les frères ennemis baasistes entre Syrie et Irak. Et alors c'est intéressant, c'est Michel Aflaq le Syrien, il est mort en Irak et il a eu des obsèques officielles en Irak en 1989 je crois.
Alors l'Irak devient donc le véritable dépositaire de la tradition baasiste. Oui. Et quelle est l'évolution de ce parti Baas et de l'Irak jusqu'au moment où Saddam Hussein
c'est le général Al-Bekr qui s'impose en 68 et c'est 10 ans plus tard quand celui-ci se retire pour raison de santé que Saddam Hussein va prendre le pouvoir. Il va prendre le pouvoir et puis
qui est-il?
Alors Saddam Hussein c'est un militant baasiste de la première heure et qui est un militant qui a fait ses notamment dans le cadre d'une tentative d'attentat contre le général Qassem, à une époque où le Baas était poursuivi par Qassem et persécuté par Qassem. Hein. Qassem qui s'appuyait sur les communistes et sur les chiites. Hein. Et Saddam Hussein donc arrive au pouvoir, je dirais presque logiquement, c'est un peu l'espoir du parti à certains égards. Et,
ce n'est pas un militaire.
Non, c'est pas un militaire, non, c'est un militant politique essentiellement. Et Saddam Hussein va s'imposer au pouvoir avec l'énergie que l'on sait et la violence que l'on sait, hein, puisque dès qu'il arrive au pouvoir, il y a une partie du parti qui est accusée d'avoir préparé et fomenté un coup d'État en liaison avec la CIA qui va être liquidée d'office, y compris un de ses cousins. Donc il va établir un régime autoritaire, une dictature, mais qui comme ce type de régime est un petit peu d'une banalité exemplaire dans toutes ces régions. En revanche, ce qui va se produire, c'est que grâce à une rente pétrolière considérable, dont l'Irak va reprendre complètement le contrôle dès 1972 avec la nationalisation de l'Irak Petroleum Company, grâce à une rente pétrolière énorme, parce que l'Irak a des réserves, on le sait, énormes, parce que les conditions d'extraction du pétrole sont particulièrement intéressantes, avantageuses en Irak, l'Irak va pouvoir entamer un processus de modernisation, de transformation, se doter d'infrastructures infrastructures, développer une politique d'éducation tout à fait exemplaire dans l'ensemble du monde arabe, et puis vous constituer progressivement une classe moyenne qui pouvait être sur le long terme la base autour de laquelle pouvait se créer un état de droit ou un régime démocratique entre guillemets si on veut, en tout cas qui pouvait représenter une capacité d'évolution pour ce système qui était pour le moment un système autoritaire fondé sur le culte du chef comme on le sait.
Donc Saddam Hussein accède au pouvoir en 78.
Ouais.
Et l'on peut dire que pendant toute la durée de, ouais. de son règne, entre guillemets, ouais, l'Irak va être en guerre.
Oui, parce qu'il va y avoir la guerre Iran-Irak, déjà, alors, pour commencer.
De 80 à 88.
80 à 88, oui. La guerre Iran-Irak, bon, on sait ce qui se passe en Iran en 1979, hein, c'est la révolution roméniste qui l'emporte, la révolution islamique, et c'est dans ce contexte, Saddam Hussein pense qu'il peut vider une vieille querelle avec l'Iran, concernant notamment le débouché sur le golfe Persique, et la région du Khuzistan iranien, qui est une région peuplée d'Arabes. Et en plus, c'est une région pétrolière, c'est la région d'Abadan, toute cette région-là. Et c'est dans ces conditions que, à la suite d'une montée de tension dans laquelle chacun a sa part, on va voir se déclencher à l'automne 80 une guerre dont Saddam Hussein espérait qu'elle serait une guerre éclair du fait du degré de désorganisation dans lequel se trouvait l'Iran, mais qui va être une guerre qui va durer 8 ans et qui va être terrible pour les deux pays puisque le volume des pertes n'est pas connu avec précision, mais on a pu parler jusqu'à 1,5 million de victimes, en tout cas certainement plus d'un million.
Et durant cette guerre, Saddam Hussein est soutenu par les États-Unis.
Alors Saddam, pendant toute cette guerre Iran-Irak, est soutenu bien sûr par les pétromonarchies du Golfe, qui craignent évidemment le pire pour elles, le triomphe de la révolution chiite iranienne. Il faut rappeler que Bahreïn, une majorité de chiites, l'État pétrolier, la région pétrolière du Hassa sur la côte orientale de l'Arabie Saoudite, c'est là qu'est le pétrole. Hein, c'est là que se trouve Rastanoura, Dahran, etc. Eh bien, une majorité de chiites également, donc on craint beaucoup en Arabie ce mouvement islamiste. C'est l'époque, faut-il le rappeler, du siège de la grande mosquée de la Mecque, de l'insurrection, quand les wahhabites trouvent encore plus fondamentalistes qu'eux. Hein. Donc Saddam Hussein apparaît comme un rempart. Lui, avec son nationalisme arabe laïque, il est soutenu par tous les États arabes de la région, il est soutenu par les Occidentaux, bien sûr, notamment les Américains, les Français, bien entendu. On sait que ça nous a valu d'ailleurs en contrepartie quelques attentats, un attentat notamment rue de Rennes, pour nos compromissions avec Saddam Hussein à l'époque, et les Irakiens, après avoir avancé quelque peu en territoire iranien, sont refoulés sur leur territoire et se battent le dos au mur, mènent une guerre de position qui va durer donc jusqu'en 1988. Alors, guerre à l'issue de laquelle Saddam Hussein n'a pas gagné, c'est le moins qu'on puisse dire, mais lui a le sentiment qu'il a sauvé les États pétroliers du Golfe, il a le sentiment qu'il a été en quelque sorte le champion de la cause arabe face à l'ennemi persan traditionnel. Hein, le journal de l'armée irakienne s'appelle Al-Qadiziyya, un souvenir de la fameuse bataille de 637. On a la mémoire longue en Orient. Et Saddam Hussein pense qu'il a à ce moment-là les moyens d'éviter de rembourser au Koweït, à l'Arabie Saoudite, notamment l'argent qui lui a été avancé hein, pour soutenir cet effort de guerre. Il a en plus un différend avec le Koweït sur les champs pétrolifères frontaliers des deux pays, hein, parce que la géologie fait que le pétrole qui se trouve en Irak, à Roumaïla, s'écoule naturellement vers le sud, et c'est les Koweïtiens qui en pompent une partie. Bon, alors, il y a toutes ces raisons-là qui créent un différend avec le Koweït. La crise monte, on le sait, pendant le printemps 1990. C'est l'époque où les Américains expliquent que la crise doit se régler sur un plan bilatéral entre Bagdad et Kuwait City, ou alors dans un cadre régional arabe qui ne sont pas parties prenantes. C'est l'époque où les Américains considèrent Saddam Hussein comme une pièce essentielle du dispositif de la région, etc. C'est l'époque où, on le sait, l'ambassadrice américaine Ariel Glaspie quitte Bagdad 48 heures pour partir en vacances 48 heures avant l'invasion du Koweït. Hein. On est dans une logique qui rappelle tout à fait celle de la guerre de Corée. Le secrétaire d'État américain Dean Acheson déclarant la Corée ne fait pas partie du périmètre de défense américain. Moralité, 15 jours plus tard, la Corée du Nord attaque la Corée du Sud, ce qui était évidemment une occasion pour Washington de donner un coup d'arrêt à la poussée communiste après la victoire de Mao en Chine.
Qui sont nos auditeurs, Victoria ?
Est-il exact que le Parti Basse est affilié au Parti Socialiste ?
Alors le Parti Basse est le champion du socialisme arabe, affilié au Parti Socialiste français. Je ne sais pas s'il faisait partie de l'Internationale Socialiste, je ne sais pas. Alors en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre de socialistes français, et notamment Jean-Pierre Chevènement, évidemment, se sentaient très proches de ce nationalisme laïque, modernisateur, qui voulait bâtir une nation arabe moderne, par opposition à ce qu'étaient les États arabes demeurer traditionnalistes, musulmans, fondamentalistes, ce qui constituait évidemment une impasse pour leur développement.
Il est très heureux pour les Américains que les Anglais soient leurs supplétifs, car ils semblent bien connaître l'Irak.
Ah oui, et pourquoi ?
Ah bah oui, ça, bien sûr, les Anglais ont une grande tradition dans cette région depuis longtemps.
Et un savoir-faire, militaire que n'ont pas les Américains. Ouais.
Compte tenu des événements qui se passent en Irak et qui s'accélèrent, j'ai bien peur que dans cette région, on puisse s'attendre à des lendemains qui ne chantent pas. Qu'en pensez-vous ?
Oh bah je crois que j'abonderai tout à fait dans ce sens, pour plusieurs raisons. Je crois que les peuples n'aiment pas les missionnaires armés. Alors apporter la démocratie, c'est peut-être très bien, mais à coup de bombe, c'est pas forcément apprécié par les intéressés qui sont censés en bénéficier. Et puis d'autre part, de manière plus générale, je pense qu'il y a en Irak plusieurs bombes à retardement évidentes. C'est d'une part la possibilité, la perspective d'une résistance à long terme. Le pays a déjà montré, dans les années 1920 notamment, qu'il était rétif à ce genre d'occupation et de domination. Il y a le phénomène chiite. Chaque fois que les chiites sont revenus sur la scène de l'histoire, ça s'est révélé explosif. On l'a vu en Iran, on l'a vu au sud Liban, où les chiites, qui représentent 30% de la population, étaient inexistants, n'apparaissaient nulle part, ne jouaient aucun rôle dans la vie politique. Quand l'opération paix en Galilée israélienne s'est déclenchée en 82, ça a suscité un réveil qui a fait que Tsahal, avec tous ses moyens, a dû se replier 3 ans plus tard. Bon, alors cette masse chiite qui représente 15 millions de personnes concentrées donc dans cette vallée des deux fleuves au sud de l'Irak, on peut penser que ça peut représenter un danger pour la suite pour les occupants anglo-américains. L'ayatollah Mohamed El-Hakim a d'ailleurs annoncé qu'il n'était pas question d'accepter une occupation étrangère, donc ça peut être dangereux. Il y a la question kurde, évidemment, parce que les Américains ne vont certainement pas sacrifier leur alliance turque à la cause kurde. Et les Kurdes, qui sont les éternels perdants de l'histoire, vont peut-être avoir assez de ce genre de scénario, avec tout ce que cela peut avoir de déstabilisant. On a déjà vu la grosse surprise qui a été l'attitude de la Turquie là, dans cette affaire. Il est clair qu'aujourd'hui, au Kurdistan, les Américains ont des forces spéciales qui sont là, non pas pour se battre contre les Irakiens, mais pour surveiller les Kurdes, pour empêcher que il ne s'impose à Mossoul et Kirkuk, parce que ça serait évidemment inacceptable pour la Turquie. Donc c'est une affaire très très compliquée, d'autant qu'on songe déjà à Washington à élargir l'expérience à des pays voisins. C'est quelque chose, je pense, qui ne fait que commencer.
Autre question d'auditeur, Victoria ?
Alors, une auditrice demande, dans quel ouvrage peut-on retrouver les intéressantes informations que nous donne Philippe Conrad ?
Vous avez un petit que sais-je de Philippe Rondeau qui s'appelle L'Irak, et vous avez un livre, mais j'ai oublié le nom de l'auteur, qui est très bien, qui vient de sortir, qui s'appelle La question irakienne chez Fayard, mais j'avoue que j'ai oublié le nom de son auteur, donc je pourrais pas vous le donner.
Philippe Conrad, il nous reste 4 minutes. Si vous aviez une conclusion à faire sur cette question irakienne.
Je crois que les anglo-saxons, et en particulier l'administration Bush, se sont engagés dans cette affaire dans des conditions très légères. Il y a déjà des dégâts collatéraux considérables au niveau de l'ONU, en ce qui concerne l'OTAN, en ce qui concerne l'Union européenne. Sur le terrain, sur place, tout le Proche-Orient musulman est en ébullition, et bien au-delà même, puisqu'on a vu les manifestations qui ont eu lieu dans des pays musulmans traditionnellement modérés, entre guillemets, si ce terme a un sens, en Indonésie par exemple. À l'inverse, la situation étant ce qu'elle est en Afghanistan, on a vu aussi des manifestations géantes au Pakistan, théoriquement associées à la lutte contre le terrorisme. Je crois que les Américains sont entrés là dans une logique extrêmement dangereuse. Je crains qu'ils n'aient eu un petit peu les yeux plus gros que le vent. enfants dans leur volonté de remodeler ce qu'ils appellent le Proche-Orient post-ottoman.
Dominique Venner, vous avez deux minutes.
Oui, non, c'était une dernière question à Philippe Conrad. À partir de quelle date le pétrole commence-t-il à être un enjeu essentiel ?
Dans cette région ?
Oui.
Oh, ça commence très tôt, ça commence dès les... Vous savez, le pétrole jaillit en Perse à Abadan en 1907, c'est 20 ans plus tard qu'il va jaillir à Kirkouk en Irak, et puis alors après on en découvre au Koweït, en Arabie Saoudite bien sûr, etc. Dès les années de l'entre-deux-guerres, c'est très important, mais c'est en termes de projection pour la suite. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y a seulement 6% du pétrole qui vient du Proche-Orient. Mais en revanche, après la Seconde Guerre mondiale, alors là, ça part, ne cesse de grandir. Ensuite, dans les années 70, après le premier choc pétrolier, les pays importateurs réussissent à diversifier leurs importations, Afrique, Amérique du Sud, etc. Mais on se rend compte aujourd'hui que les autres ressources ne sont pas aussi importantes qu'on le pensait et que les deux tiers pratiquement des ressources connues, c'est le Proche-Orient, c'est cette région du Golfe. Et donc, d'où l'importance évidemment qu'elle revêt aujourd'hui pour la suite. Notre ami Aymeric Chauprad a montré notamment comment les Américains veulent à la fois sécuriser leurs approvisionnements à eux, à long terme, et puis aussi contrôler les approvisionnements des autres, et notamment des puissances émergentes qui risqueraient de leur faire de l'ombre. Ils pensent essentiellement à la Chine. Ce pourrait être peut-être demain le cas d'une autre Europe.
Vous faites allusion à l'article tout à fait remarquable d'Aymeric Chauprad dans le numéro 2 de la revue La Nouvelle Revue d'Histoire.
Tout à fait.
Mes chers amis, merci. Nous allons donner rendez-vous à nos auditeurs au 7 mai prochain. Le prochain libre journal de Serge Beketch que j'aurai le plaisir de présenter, donc le 7 mai prochain. Merci, chers auditeurs. Merci, Dominique Venner. Merci, Philippe Conrad. Merci, Victoria. Et je vous cède bien volontiers la parole.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord. Sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 avril de 18 à 21h, en différé jeudi 10, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck.